Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 35e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Quest Corporation, les développeurs japonais des jeux Ogre Battle, Tactic Ogre et Vagrant Story. Ça se ressemble peut-être, mais honnêtement, moi j'ai arrêté d'écouter quand j'ai vu le mot Ogre Battle puis qu'il y avait le mot bat dedans.
Ah,
c'est... Ma maturité incroyable.
Mais il y a le lien. C'est là le lien, par exemple.
Ça se ressemble à cause du mot bat, ben oui.
Voilà, c'est ça. Hein?
Ben, je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et du retour de Jean-François Laporte.
Hey, eh oui, enfin!
On a eu une petite causeuse improvisée, là, mais...
Ça compte pas, ça.
Là, c'est le gala, c'est le main event, là, pour faire plaisir aux fans de lutte en avant.
Yes! Ouais.
Fait que, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commençons par le fan de lutte, Dan.
Yes!
C'est ça. Hey.
Okay. Oui, c'est ça. Okay. Non, j'ai écouté quelques matchs cette semaine de la partie comme préliminaire, si on veut, là, du Hearthstone World Championship.
Je pensais que tu allais parler de lutte pour demain.
Non. Non, pas là. Des fois, peut-être.
Ça arrive là à préparer.
Oui, c'est ça. Stagé et tout.
Mais, et comme
non,
la lutte.
On n'est pas si bon que ça. On se prépare pas tant que ça.
Non, c'est ça. Donc, le Hearthstone World Championship qui va se dérouler à BlizzCon, en tout cas.
Oui!
Fait que la semaine avant, il y avait les matchs préliminaires pour se rendre aux 8 finalistes. Je suis pas comme un gros fan de e-sports. Je suis pas ça de façon assidue, mais j'aime quand même ça m'asseoir et écouter une couple de bons matchs de Hearthstone. Puis là, comme je me suis rendu compte qu'il y avait comme une sorte de promo, si on veut, qui s'appelait Choose a Champion, où tu pouvais choisir, là, n'importe qui a un account de Battle.net pouvait choisir un des 16 finalistes. Mm-hmm. Le sélectionné, ça devenait son champion. Puis pour chaque match gagné, ça donnait un paquet de cartes dans le jeu. Ben, c'est ça. Donc, c'était quand même intéressant. Puis ça crée un peu le hype autour du jeu. C'était carrément pour ça. Là.
Quand tu m'avais exposé ça, je trouvais ça super intéressant comme façon de... Tu sais, c'est ça de prendre des côtés pour un joueur de Hearthstone. Ouais, c'est pas comme cheery pour le Canadien de Montréal. Là. Mais là, soudainement, t'as une raison de cheery pour
ben
ton...
voilà. Fait que je me suis choisi un champion. Comme je les connais pas, j'ai regardé. Je me suis dit, ah, il y en a un qui vient du Canada. Cydonia, moi, le prendre, tu sais. Puis là, je me mets à écouter ses matchs, parce que tant que j'écouterai pas tous les matchs, à un moment donné, c'est interminable. Ça reste quand même très long. Mais j'ai écouté les siens, plus c'est quand... Il y a des petites entrevues entre les parties, dans le fond, dans le match. Là. C'est comme un... Appelons ça un 4-2-7. Là. C'est un peu plus compliqué, mais appelons ça comme ça. Puis là, tu fais... Ben, Caroline, Cydonia, c'est Julien Perrault-Harvey de Montréal. Ah, ben, écoute donc.
Fait que
voilà. Hein. Fait qu'au moment qu'on d'enregistrer, là, il s'en va à BlizzCon, dans le top 8. Fait que quand même, un petit Montréalais dans le top 8 mondial de Hearthstone. Je sais pas au moment d'enregistrer où est-ce qu'il s'est placé, mais on le saura au courant de la fin de semaine, puis je vous le dirai.
Ben, peu importe, félicitations à
quand
Julien.
Même, hein. Quand même. Donc, pour ceux qui voudraient aller sur Twitter, @CydoniaHS, puis pour ceux qui, comme moi, auront Night of Cydonia dans la tête pendant une semaine, désolé. Donc, j'ai aussi, en fin de semaine passée, décidé avec ma blonde de jouer à SingStar. On a eu un petit regain de vouloir jouer à SingStar parce que, tu sais, le karaoké, c'est tout le temps drôle. Fait que dans son salon, c'est drôle aussi. J'ai juste, oups, mon PS2 est encore chez Matt.
Hey, mais tu le prendras.
Ouais, je... Fait que là, on se demande, ben, il y en a peut-être une version sur le store du PS3, tu sais, si, mettons, qui est pas trop cher, on va le pogner. Mm-hmm. Ben, il y a une version. Puis il est gratuite. Avec pas de tunes, mais le jeu est gratuit. Ah, tu sais, c'est cool. On achètera une coupe de tunes, puis on aura du fun. Mieux que ça, tu peux dropper un disque de PS2 dedans, puis il te load les tunes.
Ah, nice. Tu peux transférer donc les tunes de tes versions de SingStar que t'as.
Sauf que c'est pas vraiment transféré, parce que c'est juste qu'ils vont marcher pendant que le disque est dedans. Fait qu'il faut que tu swaps tes disques un peu. Mais
c'est une bonne façon d'éviter la bullshit de licence.
Ouais, la bullshit d'aller le louer, puis tout ça. Là. Fait qu'il y a quand même le fun. On a quand même acheté une coupe de tunes à 1,49$ de la tune. Fait que c'est quand même pas très cher, puis amusant de pouvoir choisir. Puis il y a une solide librairie, là. Très très diversifié pour un peu tous les genres. On a eu quand même du fun, puis moi j'ai eu un petit plaisir assez personnel à chanter du Korn. C'est très drôle écrit à l'écran.
Je suis tout seul à pas avoir été vivant au début des années 2000, à vous regarder danser à l'entour de la table.
Ouais. Mais il y a quand même un petit quelque chose de drôle à lire aussi ces paroles-là à l'écran. Ouais. Sinon, vous le savez, je suis fan de Hollywood Babylon, le podcast avec Kevin Smith. Puis j'ai écouté cette semaine le dernier épisode. Puis il y avait quelque chose d'assez malade. Tu as deux personnes qui ont demandé à Kevin Smith de les marier il y a un certain temps. Puis là, il était revenu au podcast. Puis on dit, fait que tu nous maries-tu? Fait que ça a été fait. Ils ont invité sur le stage. Ils les ont mariés live là. Puis j'ai un 30 secondes là, qu'il faut absolument écouter. Parce qu'après, veux-tu prendre pour époux? Y a-tu quelqu'un qui s'objecte? Il leur a fait prendre la main, puis il leur a fait, là, c'est les mots magiques, je vous drop qu'est-ce qui était...
In brightest day.
In brightest day.
In blackest night.
In blackest night.
No evil shall escape my sight.
No evil shall escape my sight.
Let those who worship evil's might.
Let those who worship evil's might.
Beware my power.
Beware my power.
Green Lantern's light.
Green Lantern's light.
And now, pronounce you man and bride. Wife, you may kiss the bride. Yes!
Yeah!
Yes! Oh!
Put the rings on each other.
Best wedding ever, là.
Mais c'est quelque chose qu'ils font.
C'est vraiment pas la première fois qu'ils le font. Okay. Actuellement, c'est pendant les épisodes qu'ils font au Comic-Con.
Okay.
Le monde, tu vois, les couples se préparent pour aller se faire marier on stage par l'officiant.
Ouais, bah, c'est ça. Tu sais, moi, c'était ma première fois, là, parce que j'ai quand même lancé assez récemment à l'écouter. Puis j'avais quand même une petite émotion dans mon char. Là,
c'est très, très cool.
Ok, c'est quand même cool. Sinon, j'ai eu une rechute de Endless Runner cette semaine sur le téléphone, là, les jeux qui avaient le discours. Fait que j'ai réinstallé Jetpack Joyride, qui est probablement un des meilleurs. Là, pas les nouveaux, mais les plus anciens sont quand même bons. J'ai réinstallé aussi Spider-Man Unlimited. Puis fuck Game Loft. Il y a un bug qui fait que si tu essaies de loader une ancienne game, une fois sur deux, ça jamme, puis ça tourne en loop. Puis tu peux juste pas, t'as pas le choix de repartir une nouvelle game. Là. Bon, pas la fin du monde, là, j'ai perdu du temps de jeu, mais j'avais pas mis de maudite scène. Mais tu sais, c'est quand même fâchant. Tu regardes les commentaires avec du monde qui disent hey, j'ai mis de l'argent, puis ils sont prêts à me le reloader. Puis tu sais, come on.
Je sais pas si le fait de changer de propriétaire, Game Loft, ça cause des problèmes. Mm. Toi, GF, Endless Runner, t'en as-tu que t'as mis du temps dedans?
Que j'ai mis du temps. Hey, Cannabalt.
Oh, fuck yeah. Je te donnais l'occasion de parler en premier, mais je voulais juste parler de Cannabalt finalement.
Cannabalt, combien? Je pense. Il n'y a pas une plateforme que j'ai eue sur laquelle il y a Cannabalt que j'ai pas acheté Cannabalt sur la plateforme. C'est
ton frigidaire LG. Non?
Avoir préparé ça, on aurait pu dropper à toune, là, parce que calé catorche, la musique de Cannabalt.
Il y en a plusieurs.
Ouais.
En plus, des versions plus récentes.
OK, moi, je connais juste la track de Cannabalt.
Mais en fait, il y a eu des updates, puis quand j'avais eu la Ouya, il y avait eu Cannabalt sa Ouya, j'avais racheté...
La quoi?
La Ouya.
Je connais pas.
Avant, j'avais mis en dessous du divan.
Ah, okay.
Très confortable, d'ailleurs.
Ah, mais t'es rendu, tu peux jouer à deux en même temps.
Multi-eco,
side by side. Il y avait des tableaux différents, il y avait des challenges, il y avait plein de musique, tu pouvais...
Ben, en tout cas, on mettra au minimum le thème de Cannabalt sur
ça vaut la peine.
Les ben, Facebooks et les Twitter.
C'est un jeu gratuit, somewhere.
Oui, oui, c'est un jeu flash en ligne, d'habitude. À jouer avec des écouteurs pour profiter du... Du soundscape. D'ailleurs, j'ai comme pas le choix de faire un retour. On avait parlé de Indie Game The Movie, puis qu'il y avait une espèce de pseudo-suite en tant que Indie Game Life After.
Ouais.
Dans Indie Game Life After, il interview Adam Atomic, le créateur de Cannabalt, puis il demandait justement, ben, il parle un petit peu de son processus, puis c'était l'idée de prendre quelque chose qui est très très low-fi visuellement, mais de mettre toute la trame audio comme si c'était un film d'action. Fait que tous les détails, tout le gap que tu remplis dans ta tête, dans le fait que toutes les explosions sont explosives, tout le folly, le son des pas quand ils courent, etc., crée un univers juste par le son. Mais le positionnement est super précis aussi. Fait qu'il y a plein d'efforts dans la tech de son pour un jeu qui est super simple visuellement.
Puis ce qui fait que la musique est tellement cool que même quand la tune arrête, puis là, il y a toujours un moment de silence où tu continues à courir, t'en as juste tes pas. Puis là, quand t'as les oiseaux, c'est toi, puis les oiseaux décollent, t'entends leurs ailes.
Ben, c'est ça, il a créé un univers juste par le son à peu près.
C'est genius.
Très, très cool. Puis justement, ça va à peine de voir le segment qui explique un peu comment on est arrivé à ce... J'ai goût de faire quelque chose. Fait qu'est-ce qui serait intéressant? Ben, exploitons le son dans quelque chose de simple visuellement. Très cool.
Sinon, update rapide de mon Nuzlocke Challenge, pour ceux qui s'intéressent. Ça avance tranquillement, fucking tranquillement, parce qu'il faut que tu grindes à côté. Mais on dirait que contrairement à quand les jeux t'obligent à grinder... Parce que sinon, tu peux pas avancer dans le jeu. Parce que je m'oblige moi-même, ça me dérange moins. Là.
On réitère que le Nuzlocke Challenge, c'est une façon de jouer à Pokémon avec des règles très strictes.
Ouais, voilà. Je l'expliquais la dernière fois, puis posté sur les réseaux sociaux, là, fait que je le referai pas.
Je compte pas sur le fait que le monde t'écoute quand tu parles. Je sais bien. Ça va à peine de le
Fait qu'en tout cas, je suis en route vers le gym de Cerulean City, grind mes levels avec Goldbird, le Zubat, Bernard, le Bulbasaur, Cal, le Butterfree, Pierre, le Pidgey, puis Manuel, le Minky.
Goldbird, le Zubat?
Ouais, mais c'est parce qu'il va évaluer en Goldbat à un moment donné. Fait que je me suis dit, tu sais, pour mes altérations, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il fallait que je pense à ce qu'il allait devenir. Sinon, c'était weird, là.
Je suis surpris que t'avais pas mis Gold Dust, le Zubat. Petit fan de lutte.
Ouais, mais non. Tant qu'à être fan de lutte, autant prendre Goldberg que Gold Dust.
Ah, Gold Bat. Ouais. En tant que fan de porn.
Gold Member. Hey, sinon, petite parenthèse d'un coup, il y a des gens qui nous écoutent et qui aiment streamer leurs aventures en ligne. Là. J'ai lu une nouvelle semaine d'un dude qui, après son raid de WoW, a oublié d'éteindre sa cam. Yes, c'est ça qui s'est passé.
C'est pas propre, ça.
Yes, fait que le reste de sa guilde a pu voir. Et voilà. Puis il y a une vidéo de réaction de salaire, là, comme avec. de sa réaction en éditant, là. Fait que, ouais, pensez à éteindre votre astide cam, bande d'imbéciles. C'est, ouais, sinon. Voilà. Ben, parlant de wow.
J'aimerais quand même savoir le chat pendant ce temps-là.
Le Twitch chat, puis le monde qui donne de l'argent.
C'est ça. J'ai jamais eu autant de donations. Peut-être parce que tu faisais de la porn.
Ouais, ben, que, ça ressemble à ça, là, pour ma semaine. Toi, Matt?
Ben, de mon côté, j'ai célébré, hein, discrètement, tout seul, devant mon ordinateur au travail, l'annonce de la date de la sortie de la suite de Goon, qui est donc Goon Last of the Enforcers, qui va sortir le 17 mars prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas Goon, c'est un film de hockey humoristique, est fortement inspiré de Slapshot. Et d'ailleurs, en français, on a même eu le droit à une traduction à la Slapshot, c'est-à-dire une traduction française québécoise. J'ai pas facilement trouvé d'extrait en québécois, mais je peux vous dropper un extrait en anglais. Ça reste très, très, très drôle.
All right, boys, listen up. We're still in this thing. We just need a quick one. Listen up, Cash! We gotta work harder than them, okay? Get harder than them, guys. You know what's hard work? Going through a divorce. She's trying to get all my money now. She can have half of it. I don't give a shit. The other half, hard work, mine. Some guys on their team are fucking divorced. Three guys there whose fucking marriages are in the fucking toilet.
We're playing divorced guys.
Yeah. We gotta be fucking triceps, biceps, arceps, hard.
Hard.
Greek fucking underground gay porn hard.
You're all Adonises.
Highlanders, gay porn hard. Gay porn hard!
En français, c'est de la porno grec illégal. Je pense que c'était cœur. Hein.
We're all Adonises.
Ouais. Fait que, hey, plus de Goon, on dira jamais non. Petite note d'intérêt public. À partir du 9 novembre, Ubisoft donne Far Cry 3 Blood Dragon, leur version de Far Cry 3, leur expansion en fait standalone, qui est comme full néon 80, avec le. Comment il s'appelle déjà l'acteur qui jouait dans le premier Terminator?
Voyons.
Lui, qui fait la voix du personnage principal.
Ok.
Voilà, fait que c'est juste du bonbon 80, c'est un. C'est une super belle capsule de Far Cry 3. C'est gratis. Ben, en fait, presque gratis. Faut quand même que tu installes Uplay sur ta machine, ce qui est quand même, mettons, comme ça.
C'est un prix cher à payer.
Ouais, ça gosse moyennement. Mais bon, cela dit.
Donc, pis, juste gratis sur PC.
Juste sur PC, oui. Puis d'ici au 9, si vous nous avez écouté avant le 9, finalement, donc dans les deux jours qui restera à la sortie du pod, ils donnent encore Beyond Good and Evil gratuitement, version PC. Ils font ça tous les mois là, dans l'honneur de leur 30e anniversaire jusqu'à. Ce qui se tarde, là. Je sais pas quand même. Bref, des jeux gratis sur PC de la part de Ubi et c'est très apprécié.
Parce que le monde installe Uplay. Puis...
Ouais, c'est bon. Ah, fuck, on a Uplay. Bon. Et finalement, on en a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Google Doodle, le petit jeu que Google nous a offert à l'Halloween.
Mon Dieu, c'était le fun.
Petit chat magicien. Vraiment trop sympathique. Puis il y a du monde qui le speedrun. Il y a vraiment comme un. Le monde veut le plus gros Christy de corps, puis toute la patente, évidemment, parce que Internet. Donc, beau petit jeu où est-ce qu'on joue idéalement sur mobile, où est-ce qu'il y a des. On joue un chat magicien qui est au milieu de l'écran, puis il y a des fantômes qui attaquent de toutes les directions, puis ils ont des séries de symboles en haut de la tête qui représentent des gestes à faire sur l'écran avec notre doigt. Puis il faut faire la séquence pour les éliminer avant qu'ils nous attaquent, tout simplement.
Moi, je l'ai essayé chez nous sur. Je voulais montrer ma blonde, tu sais, puis je l'ai mis sur le Chromecast à la télé, tu sais. Moi, je jouais sur le téléphone, je regardais pas la télé, mais elle me regardait, puis c'était tellement drôle d'avoir réagi, puis là, à un moment donné, les fantômes arrivaient un peu proches, puis étaient comme stressés. C'est vraiment très drôle.
Mais oui, mais le petit minou.
Oui, le petit minou.
Mais moi, je trouve ça génial d'avoir un jeu minimaliste comme ça, avec une mécanique super de base. Là. Tu fais des triangles ou des barres
verticales,
horizontales, des accès complexes, ouais. Puis c'est super simple, mais le jeu est engaging pareil. Là. J'ai passé.
Ben oui.
Je sais pas, c'est quoi, 10 minutes maximum, ouais, mettons, là, peut-être, là, ouais. Tu l'as fini, un petit peu moins peut-être. Puis, tu sais, il n'y a pas question que j'arrête. Là. C'est « Ah, t'as peu, là. J'ai ouais. Quelqu'un qui me parlait au travail. « T'as peu.
Ouais, yes, je joue! »
Tu sais, « Viens voir. »
C'est quelqu'un qui meurt? Non, OK, je continue ma game.
Mais c'est, mon chat.
Quand les développeurs réussissent à faire ça, c'est d'avoir des mécaniques ultra simples. Avec, tu sais, le tableau change à peine. Il n'y a pas de scrolling. J'ai des petits fantômes qui s'approchent.
Je les boss qui changent vraiment.
Puis ils te font embarquer comme ça. C'est chapeau.
C'est une idée simple, très bien exécutée. Yeah. Ouais. Puis toi, Jeff?
Ben écoute, cette semaine, niveau gaming, c'est la sortie de Battlefield 1. Fait que je me suis.
Oui, j'avais annoncé l'autre fois.
Hey! Ouais, ben j'ai retombé dans Battlefield vraiment. Que j'avais pas vraiment joué depuis Battlefield 3 avec une petite incartade dans Battlefield 4. Mm-hmm. C'est ça, c'était. Fait que, non, mais pour vrai.
c'était le content quand même parler.
Mais c'est super le fun. Ce qui me marque le plus du jeu, c'est un certain respect. on est un petit peu habitué avec les Call of Duty ou comme la guerre, c'est un spectacle. Puis dans toute l'approche et la narrative de la campagne solo, qui pour un Battlefield est étrangement excellente.
Ça a toujours été quelque chose qu'on. En fait, c'est jamais quelque chose qu'on réussit à bien faire avec Battlefield. C'est
ça. Là. Là, c'est super. C'est assez cinématique pour dire que t'es comme oh my god, c'est vraiment cool. Mais les dialogues entre des personnages, puis les sujets qu'ils abordent entre eux autres quand ils se parlent, ça a un petit côté sérieux. Puis il y a clairement un respect pour ce qui s'est passé dans ce temps-là. Fait que c'est le fun. Fait que je me fais sniper à des kilomètres de loin en ligne. Mais avec respect. On fait tout ça avec respect.
C'est toujours un disconnect. Il y a toujours un écart entre la campagne respecte beaucoup le matériel source, puis après ça, je m'en vais jouer en ligne.
Je me fais tibère.
Ouais. Mais pour vrai, le jeu en ligne corrige beaucoup des choses que je reprochais avant. Tu sais, avant, t'étais les mitraillettes sur les véhicules ou dans les avions, ça ne servait absolument à rien. Tu ne peux pas tuer quelqu'un à pied. Là, ils ont corrigé ça. C'est plus le jeu feel balancé. Puis. Le fait qu'il y ait moins de technologie, t'as pas de drone, t'as pas rien pour détecter les ennemis. Fait que le jeu se joue beaucoup plus avec tes yeux. Si tu eyeball les ennemis beaucoup plus que.
Le jeu se joue beaucoup plus avec tes yeux. Il devrait mettre ça en arrière de la boîte.
C'est pas fou.
Hein? Mais.
Ben, il cherche les bonnes quotes, là. Ça pourrait être le jeu se joue plus avec les yeux.
Je la vends pas cher, ce quote-là. Si vous nous écoutez, là. Dice.
Bien sûr.
Mais pour vrai, ce qu'il a fait, c'est que le jeu est un peu plus lent. Mm-hmm. Le jeu en devient plus le fun. En fait, tu te fais moins tuer pour rien. Puis tu peux faire plus de stratégie, c'est plus facile. C'est moins run and gun à la Call of Duty.
Moins rapide un peu.
C'est ça. Puis tu as beaucoup plus le feeling de ramper dans des tranchées. Puis,
Mais j'avoue que c'est une belle façon de ramener des mécaniques plus de base, si on veut, de ramener ça à un moment où est-ce que la technologie était moins avancée. Tu sais, c'est une façon de revenir à des trucs un peu plus. C'est ça. Tu t'enlèves les avions, les drones. Ben, puis...
ça crée une certaine simplicité mécanique. Là, ouais. Où est-ce que les guns sont moins fancy. Puis bref, t'encourages que les joueurs soient plus de proximité. Mm-hmm. Les armes de longue portée doivent être pas mal plus limitées.
Oui.
Bon, c'est ça. Fait que c'est... Puis juste par la surabondance de jeux de shooter modernes, même si on oublie le cadre, l'histoire, le thème, l'armement est tout le temps le même. Puis là, soudainement, tu crées une nouvelle variété d'armement juste par ton thème.
Oui. Puis bien, il faut donner un point au jeu pour les combats aériens de biplane là, à la Red Baron.
Ah, ouais.
C'est toujours un plus.
Tu peux embarquer sur une niche comme Snoopy.
Fait que là, cette semaine, JF nous fait une critique de Red Baron sur PC, le shooter de Sierra de 1980, trop longtemps.
Si seulement. Peut-être dans le prochain épisode. Qui sait? Sinon, cette semaine, c'était aussi le retour à la télé sur AMC de la saison 7 de The Walking Dead.
Et spoil rien.
Sans rien spoiler, ce que je veux parler, c'est pas la saison 7 de The Walking Dead, mais c'est plutôt le Walking Dead Quitters Club.
Oh, fait longtemps que je suis là-dedans.
Ouais. effectivement. Mais c'est un groupe qui a été parti par les journalistes sur The Verge.
OK.
Yay! Et qui, depuis déjà la saison 3 ou 4, je me rappelle bien, était commencé à trouver que le TV show prenait un petit peu ses spectateurs pour acquis, puis faisait des choses qui n'étaient pas nécessairement acceptables dans un TV show, puis c'était juste un mauvais TV show finalement. Puis ils se demandaient quand est-ce que Walking Dead irait trop loin, puis les forcerait à arrêter de suivre la série. Ça fait plusieurs saisons que ce club-là existe, puis qu'à chaque épisode, ils parlent des épisodes, puis ils parlent de qu'est-ce qui était déplacé ou qu'est-ce qui était comme too much. Et
culture semblerait... du chialage, s'il vous plaît. Là, mais...
Ben, semblerait que l'épisode 1 de la saison 7 est l'épisode qui a poussé les gens de The Verge à fermer le Walking Dead Quitters Club parce qu'ils ont décidé de quitter The Walking Dead. Fait que je ne ferai pas spoilers pour ceux qui ne l'ont pas écouté, mais c'est fucking hard.
J'ai entendu des commentaires de, mettons, violence non nécessaire, over-graphique, mettons.
Ben déjà, moi, j'étais en train d'écouter la saison 6. Là. On a recommencé il y a quelques semaines, mettons plusieurs semaines quand même, à réécouter. On avait lâché autour de la saison 2, nous autres aussi. Puis... T'sais, dans saison 6, c'est des bouts que c'est comme ah, c'est pas nécessaire là, t'sais. Mmh. Fait que je vais peut-être le joindre aussi rendu à la saison 7, on verra.
Mais t'sais, la violence gratuite puis le c'est quoi, c'est 45 minutes un épisode, 45 minutes de contenu avec 10 minutes de matériel finalement là, ils ont juste étiré à sauce pendant longtemps.
Pourquoi tu pointes le projet d'enregistrement du podcast?
Une heure de contenu avec une joke de coq.
Non, ça c'est 35 épisodes de contenu avec une joke de coq.
Mais d'un côté télévisé plus agréable, mais il y a aussi la saison 3 de Black Mirror.
Spoiler rien.
Bon, mais c'est ça. Fait que saison 3. Next.
Non,
mais... Mais c'est pour ceux qui connaissent pas ça, la
on fait une review, on fait une review de l'interface de Netflix. Parce qu'il risque qu'on peut rien parler.
Mais, sans parler des épisodes, pour ceux qui connaîtraient pas Black Mirror, c'est une télésérie anglaise, British, qui est une télésérie, je sais pas si c'est ça qu'on appelle une télésérie d'anthologie, où c'est pas, il y a pas de suite dans tes épisodes. Chaque épisode est un complet stand-alone avec un début, un milieu, une fin. Puis il y a pas de lien entre les épisodes.
Mais il y a des petits liens entre les épisodes mais, pour les faire.
Mais t'es pas obligé de les écouter dans l'ordre.
Pas tout.
Ça va quand même faire du sens. Puis c'est de la science-fiction spéculative.
En général, on dit que c'est Twilight Zone pour le 21e siècle. Ouais.
Donc avec un petit côté sombre. Puis
C'est beaucoup des nouvelles littéraires. Là. Ouais. Donc les fins sont habituellement un peu tordues. Puis c'est pas fait pour que tu te couches en pensant à rien.
Oh non. Certains épisodes de la saison 3 qui sont assez, assez troublants et dérangeants.
On verra si on prend plus le temps d'en parler. Mais là, c'est assez récent. Je présume que la plupart des gens n'auront pas eu le temps de se claquer ça encore.
Mais quand vous allez quitter Walking Dead, allez quitter Black Mirror.
C'est bon, je garde ça en tête.
Fait que c'était ma semaine!
Dans l'actualité, on a une histoire qui se passe chez nous. Non, pas à Joliette, là, ou même dans la Nadia, là. Il n'y a jamais rien qui se passe ici, là. Mais à Montréal, ce qui est assez proche pour qu'on dise chez nous.
Hein.
Bon, oui, c'est ça. On a le réditeur Triple H 280.
Yes!
On va faire un drop de ça.
C'est comme la semaine où est-ce que j'ai de l'émotion.
J'aimerais ça que ça se reproduise pas.
L'émotion musclée, huilée en speedo.
Ah!
Hop, ils viennent d'avoir une autre émotion.
Ouais, une autre émotion.
Alors, le réditeur Triple H 280 prenait le métro quand il surprit un individu avec un portable sur ses cuisses. Espérant probablement que le gars est en train de checker de la porn, il regarde par-dessus son épaule et, à sa grande déception, n'aperçut pas une paire de tits, mais bien un document avec le nom Shadow of the Tomb Raider en haut à droite. Il semblerait qu'un imprudent employé de Eidos Montréal était en train de consulter ou d'éditer un document portant le nom, pas encore officiellement annoncé, du prochain opus de la série Tomb Raider.
Ça, c'est drôle.
Oups.
Oups.
En fait, rien confirme qu'il s'agit d'un employé de Eidos Montréal, car jusqu'à cette fortuite rencontre avec une slide PowerPoint par un usager du transport en commun n'ayant aucun respect pour la vie privée des autres usagers, la plupart des gens croyaient que le jeu aurait été développé par Crystal Dynamics à San Francisco. Mais bon, hein, rien d'officiel, l'implication d'Eidos Montréal est peut-être encore mineure, mais bon, espérons quand même que personne ne va perdre sa job à cause de
ça. Peut-être une fanfiction.
Sacrifice. Le gars est en train d'éditer un PowerPoint d'une présentation d'un fanfiction. Yes. Il y a des affaires qu'on n'est pas au courant.
Y a-t-il des conventions, genre, de fanfiction de Tomb Raider?
Spécifiquement. Bon, tu sais, il y a des... Au Geek Fest, ils font un événement de podcast, fait que tout ça peut.
Ouais, voilà.
Voyons, c'est quelque chose que tu fais dans ton sous-sol, ça, puis que personne n'écoute un podcast. Alors, on passe à une autre nouvelle. Mon Dieu, que ça mène à rien. Comme nous l'a indiqué Danny, dans son segment extrêmement informatif sur les sorties de jeux lors du dernier épisode, puis je devrais dire, comme nous l'a rappelé Jeff, le 21 octobre dernier marquait la sortie de Battlefield 1, qui, malgré le 1 dans son titre, est la 32e sortie de la série, si on compte les expansions. Les critiques ont louangé le jeu d'apporter de quoi de nouveau à la série quasi-annualisée qui commençait à manquer de souffle, notamment en utilisant la Première Guerre mondiale comme arrière-plan, mais aussi en offrant une campagne solo très respectueuse du matériel source. Hein, j'aurais dû lire mes affaires. Ouais,
et qu'on a de la suite des idées.
c'est pas une tâche qui est simple à faire là, à travers l'utilisation de mécaniques autres que tirer dans le tas. Hein? Bref, il semblerait que la campagne utilise beaucoup de stealth et d'éléments divers plutôt que de juste faire un shooter. Puis ça semble y réussir. Fait que pourquoi je vous en parle? Parce que, clairement, je répète ce que Jeff a dit. Il fallait que quelqu'un se prenne les pieds à quelque part. Puis je vous présente le compte Twitter de Battlefield 1. dans une tentative d'être hip et cool, le 28 octobre dernier, une série de tweets utilisant le hashtag JustWorldWarOneThings ont fait surface sur le compte.
Oh boy.
L'idée étant de parodier toutes les publications du type Just Small Things ou Just Girly Things à propos des petites choses qui font plaisir dans la vie, comme la première baignade de l'été ou le plaisir de s'enrouler dans une grosse couverture.
Ou le gaz moutarde.
Pretty much. Hein? Fait que, alors, il y a un tweet avec le hashtag Just World War One Things présentait un gif animé d'un soldat tirant du lance-flamme avec le texte When you're too hot for the club. Il n'en fallut pas plus pour que les internets web s'adonnent à son sport préféré et s'offusquent sans limite, permettant à tous les sites de nouvelles, je devrais dire de nouvelles, et podcasts à la recherche de nouvelles, de reprendre les deux tweets et d'en faire toute une histoire. Évidemment, EA s'est excusé de la situation et les tweets ont été effacés. Vous étiez si proche pour une fois, EA. On se reprend avec le prochain jeu. Okay? Okay. Le site de technologie préféré de tous les amateurs de Divan Quest, La Verge, nous présentait une... Comment, Dan?
Yay!
Merci.
Il est moins enthousiaste.
Non, mais
il y a mieux la lutte que les verges.
Ben, enfin,
il me semble qu'il y a une intersection.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, le site technologique La Verge nous présentait une étude excessivement sérieuse et pertinente, analysant l'utilisation Facebook de 12 millions de personnes âgées d'entre 27 et 71 ans et leur longévité, en utilisant les données du département de la santé publique de la Californie. L'étude, menée par William Hobbs, révèle que les gens qui démontraient une activité Facebook indiquant une vie hors ligne riche vivaient plus longtemps. Également, les gens qui reçoivent beaucoup de demandes d'amis tendent à vivre plus longtemps. Par contre, pas de données convaincantes sur la longévité de ceux qui en envoient beaucoup. Bon, c'est juste moi là où il y a des maudites bonnes chances que si t'es pas en santé, t'aies pas vraiment le temps de poster des photos sur Facebook, que t'es allé au resto manger quelque part qui coûtait trop cher, mais que tu voulais vraiment prendre une photo quand t'étais allé.
Insoluté.
Just girly things. Quand l'infirmière te plug ton soluté. Okay. Ou que, tu sais, si tu rencontres du nouveau monde, c'est parce que tu fais des choses. Puis bref, c'est pas l'inverse. Non, que si ton compte Facebook démontre de l'activité hors ligne, c'est que t'es actif et en santé. C'est la poule puis l'œuf un petit peu, me semble, dans ma tête. Ouais. Anyway.
Puis ça inclut les gens jusqu'à 71 ans.
Ouais.
On s'entend que 50 ans en montant n'ont pas grandi avec Internet puis vont poster moins de trucs sur Facebook.
J'aimerais savoir les stats de ça parce qu'il me semble que j'ai, dans mon temps en vente, j'ai eu beaucoup de clientes plus âgées qui devaient vivre 8 heures par jour sur Facebook.
Oui, mais est-ce qu'ils font des selfies puis ils postent hashtag tout ce qu'ils font? Puis...
Hashtag just grandma things.
Ouais, c'est ça.
Peut-être.
Avec une photo de saluté.
Colique. Hashtag just sound the TV things. Ouais. Anyway, hein, pour ajouter à la pertinence de la patente, il se trouve que M. Hobbs, le meneur de l'étude, a fait un stage chez Facebook en 2013, confirmant bien son impartialité.
Ben, c'est sûr.
Et Moira Burke, la deuxième auteure sur l'étude, est une chercheuse de l'équipe de sciences de l'information chez Facebook. Yep. Manque juste un ancien chercheur de chez Marlboro pour nous dire que fumer Facebook, c'est bon pour la santé, puis on est en fucking business. Là. Anyway. Ça me semble que je suis ta mère dans mes news.
Ouais, c'est ça.
Fait du bien. Et finalement, Kristen McMillan, une charmante grand-mère ontarienne de 86 ans, a reçu des courriels la semaine dernière lui annonçant qu'elle pouvait avoir à payer une amende de jusqu'à 5 000 $ pour avoir piraté le jeu Metro 2033. Bon, premièrement, là, on va se le dire. On peut pas vraiment passer à côté. Et bien sûr, la réaction de Mme McMillan qui fut « C'est quoi ça, un email? » suivi de « C'est quoi ça, Métro 2033? » Non, excusez. « C'est quoi ça, un Métro 2033? » suivi de « Je n'ai jamais fait de mon épicerie là. » suivi de « Les patates sont donc bien chères à ce métro-là. » suivi de « Je comprends rien, moi, dans ces enfers-là. Là, » pour ensuite aller faire une sieste. À son réveil, elle... Oh, tu m'as... À son réveil, Mme McMillan accorda une entrevue à CBC News, expliquant, encore une fois, ne rien y comprendre, disant qu'elle est la seule à avoir accès à son ordinateur et disant tout simplement « Pourquoi est-ce que je téléchargerais un jeu de guerre? » Pourquoi est-ce que je téléchargerais un jeu de guerre? En plus, qu'il y a des maudites bonnes chances que son PC ne le roulait pas. Là. Mais bon. Hein. Ben oui, il s'agissait des mêmes maudits emails que plusieurs d'entre vous ont probablement reçus par l'entremise de votre distributeur de services Internet. Et par le pouvoir infini du câble. Mais cette fois-ci, ayant pour effet de rouvrir le débat sur ces pratiques-là, d'envoyer des lettres sans valeur légale, en espérant faire peur aux récipiendaires et leur soutirer de l'argent sans raison. L'article de la CBC confirme que Mme McMillan, avec les conseils des journalistes et des experts, a décidé d'ignorer les avertissements et de continuer à fraguer des noobs en toute quiétude. GG, Mme McMillan, GG. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Fait que ceux de vous qui ont écouté le deuxième épisode de La Causeuse auront pu remarquer, hein, notre enthousiasme pour non seulement la Nintendo Switch, bien sûr, mais pour un des personnages les plus marquants du trailer de la Nintendo Switch. Plusieurs d'entre vous m'ont d'ailleurs contacté pour me communiquer votre amour et votre admiration pour celle que l'Internet a nommée Karen. Je vous annonce donc le début de la campagne « Un amiibo pour Karen ».
Karen.
Eh oui, quelqu'un a composé un hymne pour Karen. C'est là la portée de ce que représente Karen.
Vous me direz, ben oui, esti, là, le monde rit juste de sa gueule parce qu'il est vraiment con de venir se switch dans un party où il y a du monde qui socialise. Mais Karen n'est-elle pas un peu chacun d'entre nous? Socialement awkward et acheter des consoles Nintendo, je suppose.
Ouais,
et là, vous me direz, Chris, c'est pas toi qui a traité de sti de con dans la dernière cause. Et là, je répondrai, ben c'est ta gueule, sti. Mais je crois que malgré certaines de nos réticences, Karen est la meilleure chose que Nintendo ait sortie en 2016. Et je crois qu'elle mérite son propre amiibo. Complet avec coupe de cheveux, bol de toilette, style Uma Thurman dans Pulp Fiction, mais un peu manqué. Alors, je vous invite à suivre le lien sur le site de Divan Quest pour aller signer la pétition et professer votre amour de Karen à Nintendo. À chacun des épisodes futurs de Divan Quest, nous partagerons les témoignages les plus touchants pour que les gens sachent à quel point l'Internet, ça sert à se soucier des choses crissement insignifiantes pour mieux ignorer les vrais enjeux. Joignez-vous à nous et aidez-nous à obtenir un amiibo pour Karen.
Ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Puis ça, ça énerve.
Donc oui, ce qui s'en vient dans notre univers des Divan Quest.
L'amiibo de Karen.
Espérons-le.
Ah, okay.
Mais il n'y a pas eu d'annonce encore officielle, donc je vais me réserver les annonces officielles pour l'instant.
Ça ne saurait attendre.
C'est sûr. Écoute, avec ce beau plaidoyer. Donc, côté gaming, là, dans les semaines qui s'en viennent, pas des tonnes de choses intéressantes pour vrai. Beaucoup de suites. Un nouveau Harvest Moon qui sort le 8, nouveau Dishonored qui sort le 11, nouveau Watch Dogs le 15, nouveau Pokémon le 18... Fait que c'est ça.
Quand même. Là.
Mais c'est oui,
pas
mais...
pire line-up.
Oui, mais tu sais, c'est des sequels.
Je trouve Dishonored très intéressant quand même. Là.
Je dis pas que c'est pas intéressant. Pokémon, je le trouve très intéressant.
On juge, Dan. On juge.
Je vois ça. C'est juste qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Puis un repack aussi, là, le Ezio Collection de Assassin's Creed, le 15 aussi. Bref, tu sais, je dis pas que c'est pas des bons jeux. C'est juste qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On les connaît.
Oui.
Par contre, côté cinéma, le 18 novembre qui s'en vient, ça va être la sortie de Fantastic Beasts and Where to Find Them, film qui se passe dans l'univers d'Harry Potter, qui est inspiré d'un petit livre qui était sorti à un moment donné, là, quand les livres étaient beaucoup à l'avant-plan, qui est, un de leurs livres d'école, un de leurs manuels. Puis le film est inspiré de ce livre-là, mais c'est pas le livre, parce que le livre, c'est un manuel, là, ça serait pas... Mais bon, ça suit la vie de l'auteur de ce manuel-là. Puis ça a l'air assez intéressant, là. C'est une histoire nouvelle, une histoire originale dans l'univers d'Harry Potter. Je vous dirais que c'est...
Ouais, non, je suis...
Qui devrait être une trilogie.
Ouais, ça, c'est finalement devenu une trilogie récemment ou quelque chose de même.
OK, j'ai pas suivi tout.
Ouais, en tout cas, bref, ils ont étiré le nombre de films que ça devait être récemment. Parce que c'était en mode.
Parce que c'est ça. Hey, on peut faire plus d'argent.
Et voilà.
Pour faire plus de poudre, pour faire plus de films. Faire plus d'argent.
Non, ça m'intrigue. Je suis vraiment curieux d'y voir, surtout que mea culpa, là, j'ai même pas fini les films d'Harry Potter. Là. Je me suis juste tanné en route. Là.
Ouais, t'as lu les livres?
Oui.
Correct.
C'est ça. Je me suis un petit peu tanné en route.
Mais j'ai vu le preview l'autre fois au cinéma, puis ça a l'air quand même assez nice. Ouais. Que, j'ai hâte de voir. On va sûrement reparler. Puis sinon, un petit rappel, hein, si vous avez quelque chose qui s'en vient, quelque chose que vous avez le goût de plugger, quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs, ben faites-nous signe. Hein, on charge pas cher là, pour plugger ça.
Un peu le Kijiji des podcasts.
Le Kijiji des podcasts.
Ça vaut pas un beau menhir, ces pyramides. On a-tu comme oublié d'introduire c'était quoi le thème de l'épisode?
Ben oui.
Ben on pourrait revenir sur le thème de l'épisode. Tu sais, revenir sur le thème.
C'est bon.
Parce
bon,
que le thème,
bon
c'est lien. Le retour. Parce que. Mettons. C'est parce qu'on célèbre évidemment le retour officiellement de Jeff sur le show. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un épisode.
Ça va? Ben c'est vrai la dernière fois qu'on entend ce thème-là. Hein? Avec Astérix et Obélix.
Fait qu'est-ce que tu nous offres, Jeff, sur le thème du retour?
Mais quand on parle du thème du retour, hein, j'ai décidé de voler l'idée à Danny cette semaine.
Ouais. Okay.
Donc, Danny qui a interrompu ma réflexion de quoi je pourrais bien parler. Là, Danny a dit « Hey, on pourrait parler des suites de Half-Life. » Bingo. Fait que j'ai shotgun.
En fait, ça a été... Moi, je pensais peut-être parler des suites de Half-Life.
Mais, hein?
J'ai dit, check un gala de lutte.
Oh! Donc, pas les suites dans le sens de Half-Life 2 et ses épisodes. Plutôt les suites de Half-Life 1 du jeu original. Donc, on parle de Opposing Force, on parle de Blue Shift et on parle du remake qui est sorti récemment. Donc, C'était, ça date, c'était des suites qui datent d'une autre époque un petit peu. Pour moi, ça date un peu de la même époque, les suites de le StarCraft original ou les suites de Warcraft dans ce temps-là, où le même engin, le même contenu, juste plus d'histoire, puis les gens étaient contents. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens seraient peut-être un peu plus frustrés.
C'était les... C'était les expansions avant que ça s'appelle les DLC.
Exactement. Ah. Donc, des vraies expansions. Donc, la première, c'est en 1999, le 19 novembre, en fait, où Valve va demander à Gearbox Software de développer la suite officielle de Half-Life qui s'appelle Opposing Force. Donc, c'était une expansion qui utilisait les mêmes modèles, les mêmes contenus. Mais Gearbox ont poussé la... Il y avait une certaine liberté au niveau de la création. Fait qu'ils se sont permis de faire venir beaucoup de talents externes là, qui n'étaient pas dans leur entreprise à ce moment-là pour développer plein de contenus original pour pousser Half-Life plus loin que ce qu'il était finalement. Fait qu'on a eu droit à des armes qui n'étaient pas dans le jeu original. Ils ont même amené une nouvelle race d'extraterrestres qui est la Race X.
Est-ce qu'ils ont été présents dans d'autres contenus de
Half-Life? Non, ils sont seulement dans Opposing Force. Pour une raison que j'expliquerai dans quelques instants en parlant de Blue Shift. Donc, ils étaient seulement dans Opposing Force à ce moment-là. Et tout plein de contenu. Et dans ce jeu-là, ce qui est, comme le titre le dit, on joue les forces opposées. En fait, donc on joue les Marines, on joue les ennemis de M. Shepard. Le titu...
M. Shepard.
M. Shepard. Comment il s'appelle? Non, c'est M. Freeman.
Oui, merci.
M. Freeman, M. Shepard.
T'as le goût de jouer à Mass Effect, toi?
Non, en fait, c'est parce que le personnage principal d'Opposing Force s'appelle Shepard. Donc, où on joue ce personnage-là, qui est, si on se rappelle de l'histoire, parce que tout le monde a joué Half-Life. Aujourd'hui, c'est pas jouer Half-Life. Allez-y, on vous attend. Donc, dans Half-Life, les scientifiques essaient de s'échapper du complexe Black Mesa pour avoir ouvert une faille vers un autre monde où les extraterrestres ont envahi la Terre, ou le complexe plutôt. Et l'armée est envoyée pour faire le ménage et taire les scientifiques et tout ça. Et on joue un de ces Marines-là. Donc, on est envoyé. Puis ce qui est intéressant du jeu, c'est qu'à travers tout le jeu, on va suivre les traces de Gordon Freeman. Mm-hmm.
Donc, tu suis tes propres traces, tu as joué à l'autre
du jeu d'avant. Et on le croise à quelques reprises jusqu'au moment final où c'est juste avant que dans Half-Life on quitte le complexe pour aller sur Xen, l'autre univers. Là, on voit, tu rouvres la porte, puis là tu vois Gordon Freeman qui court, puis qui sort dans le portail, puis tout se ferme devant toi quand tu joues le Marine. Et à ce moment-là, ben, il décide de s'échapper, puis il doit affronter finalement toutes les forces parce que le gouvernement s'est tanné pour une raison qui est plus ou moins expliquée dans Half-Life, mais c'est tanné de travailler les Marines et envoyer des Special G-Men. Force, les Black Force, vraiment, pour aller éradiquer tout le monde. Fait qu'on tue l'armée, on tue les extraterrestres,
on envoie les Marines, on fait le ménage. Ils sont pas assez vite. On envoie d'autres mondes tuer les Marines.
Hey, on n'a pas une bombe ou quelque chose. Ça me serait moins compliqué.
Non, on envoie d'autres mondes. Puis après ça, on envoie d'autres mondes tuer l'autre monde qui est parti tuer l'autre monde.
Donc, c'était la première suite de Half-Life qui était super bien reçue, notamment parce que ça l'amenait des nouveaux modes de jeu en ligne. Puis on se rappelle qu'Half-Life, c'est un petit peu le jeu qui a ramené au goût du jour le shooter en ligne avec ses deathmatch, tout ça, qui a donné... Oui. On se rappelle tous les modes, là, Ricochet...
Oh, j'allais dire juste la map, c'est quoi, là, Crossfire, là? La map avec le bunker que tu peux aller faire partir le missile.
Ouais.
Calic, c'est drôle.
Mais c'était tout des maps du jeu, en fait. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a eu tous les spin-offs après ça qui ont été faits, comme Ricochet, qui était le genre de Tron, un petit peu, genre de Tron Disc. Puis évidemment, qui a mené à Counter-Strike et Team Fortress. Donc, toutes ces maps, il y a eu beaucoup de choses qu'on va retrouver dans ces jeux-là par la suite sont probablement provenues là, des mouvements de multijoueurs que Opposing Force a amené à ce moment-là. Fait qu'il était bien reçu, évidemment. Il y a toujours les gens un peu insatisfaits qui ont dit « Moi, c'est la même chose, c'est le même monde. » Puis ils n'ont pas changé les graphiques. Puis ça fait déjà plusieurs années que le jeu est sorti.
Et où Karen?
C'est ça, ouais, et où Karen? Ça. Ils l'ont pas trouvé. Il était fâché.
Il était parti sur Xen.
Donc, le jeu gardait la même chose où ton personnage est un personnage muet, tu parles pas. Fait qu'il gardait tout ce qui faisait, tout ce qui a fait le succès de Half-Life. Ils ont juste construit dessus avec la liberté qui s'était fait offrir par Valve. Mais selon moi, la part principale qu'Opposing Force a amené à la franchise de Half-Life... c'est que ça a permis à Gearbox d'avoir un contrat avec Valve pour faire une autre suite qui est arrivée en 2001, qui a commencé à développer en 2001, en fait, qui est Half-Life Blue Shift. Où, dans Blue Shift, en fait, au lieu de jouer les Marines, on joue les ennemis, on joue les agents de sécurité de Black Mesa. Donc, le fameux Barney qui aide Gordon Freeman à plusieurs reprises à travers le jeu. On joue ce personnage-là. Puis le but du jeu est assez simple, c'est il faut juste se sauver puis essayer de ramener le plus de personnes avec nous là, dans l'histoire à travers tout ça. Donc, on garde encore les mêmes principes. Mais ce jeu-là n'était pas destiné au PC. Puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça que j'ai appris en faisant mes recherches cette semaine. Le contrat original que Gearbox a eu, c'était de développer une version de Half-Life pour le Dreamcast. Puis dans ce contrat-là, ils ont choisi de créer une nouvelle expansion qui était Blue Shift, qui allait utiliser Half-Life, puis l'emmener au Dreamcast avec plus de contenu. Donc, le projet a été canné avant d'être sorti sur le Dreamcast, parce qu'à un moment où le jeu allait pour être prêt, ils ont décidé que la technologie était un petit peu dépassée, blablabla, puis le jeu n'aurait pas le succès qu'ils s'attendaient. Donc, ils ont préféré plutôt le convertir. Ils l'ont release là, sur PC. Mais, c'est quand même possible aujourd'hui de trouver la version Dreamcast de Half-Life. Et la version Dreamcast de Half-Life contient Blue Shift au complet, qui est inclus dedans.
Il était
pas mal. Il y a quelques petits bugs. J'ai regardé une vidéo sur Internet, quelqu'un qui le joue au complet, étant donné que j'ai pas de Dreamcast. Là. Tu sais, quelques petits bugs. Mais ils ont fait des choses super intéressantes avec la version. Puis c'est au niveau des contrôles, principalement. Parce qu'on se rappelle, absolument, un shooter moderne se joue avec deux joysticks, avec un twin stick. Et le Dreamcast n'a pas deux joysticks. Il y a un seul joystick. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené toutes les commandes de la caméra, donc regarder en haut, en bas, chaque côté, donc ce qui contrôle la tête du personnage, ils les ont mis sur... Ils ont inversé les contrôles, finalement. On est habitué de regarder avec le joystick de gauche, avancer avec le joystick de droite. Ils ont inversé les contrôles pour la manette de Dreamcast. On se déplace avec le seul joystick de la manette et on regarde en haut, en bas, à gauche, à droite avec les quatre boutons de la manette de Dreamcast. Puis ils ont tout un principe, là, on tire avec le trigger principal, puis le trigger secondaire, quand on le tient, ça remap les boutons de la manette pour faire des actions secondaires. Okay. Donc, c'est quand tu tiens le trigger de gauche, le trigger de droite va faire l'attaque secondaire des armes, par exemple.
C'est quand même pas été évident.
Mais la personne que je regardais jouer disait que étrangement ils ont mis assez de temps dans ça pour que ça soit très jouable. Puis il dit, après 4-5 minutes, t'es habitué. Puis il était capable de jouer aussi aisément que sur PC. C'est sûr, là, l'auto-aim, la précision est ajustée. Mais ce que je trouvais super intéressant dans un système avant les shooters comme ça, où ils ont quand même eu la présence d'esprit, de dire on va innover et on va essayer d'utiliser la manette différemment.
Il y a quelques shooters dans cette époque-là, là, fin du PlayStation 1, époque du Dreamcast, qui ont vraiment fait des affaires intéressantes au niveau des contrôles. Puis il n'y avait pas encore de standard, fait que tout le monde essayait leur truc.
C'est ça, cherchait quelque chose, essayait quelque chose.
S'il y en a qui ont des Dreamcast qui seraient intéressés à le tester, ça se trouve encore sur Internet. Je vous dirai pas où, puis j'ai pas fait de la recherche, étant donné que je n'ai pas de Dreamcast, mais ça se trouve encore. Puis il y a tout plein de sites web qui expliquent, là, puis des vidéos sur YouTube qui expliquent comment être capable de l'installer pour pouvoir le jouer sur Dreamcast. Donc ça vous tente d'essayer une relique du Dreamcast qui n'est jamais arrivée, puis qui aurait pourtant été une bonne addition, je pense, au line-up de jeux au Dreamcast. Il y a quand même des jeux intéressants, ben oui, ça aurait été un bel ajout. Vous pouvez quand même le tester si vous voulez. Donc, le jeu Blue Shift a par la suite été mis sur PC en 2001. Ils sont tous disponibles pour vraiment cheap, ces jeux-là, sur Steam. Ce qui est intéressant aussi de Blue Shift, c'est qu'étant donné qu'ils s'en allaient vers une nouvelle plateforme puis qu'ils voulaient donner un petit peu, revamper le jeu, c'est que Blue Shift met à jour tous les modèles du jeu au complet. Donc, tous les personnages, toutes les armes, tous les environnements, il y a un skin pack, un model pack qui vient avec le jeu puis qui modifie tout le jeu original aussi. Donc, c'était possible qu'on avait Blue Shift, qu'on l'installait, on pouvait jouer à Half-Life, et tout d'un coup, tous les personnages, il y avait plus de polygones, tout était plus poussé. Trop peu trop tard, à l'époque, selon les critiques, parce que les engins graphiques avaient déjà dépassé le niveau de ce qui avait été fait, mais c'était quand même intéressant.
Fait qu'en train de me dire que moi, quand j'ai joué à Half-Life, j'ai joué en achetant cette boîte-là, donc c'est clair que j'avais installé l'update.
Sans le savoir.
J'ai joué à la version upgradée de Half-Life, qui est quand même pas si belle que ça.
Donc, ce qui est intéressant de Half-Life, c'est que c'est un jeu qui refuse de mourir, on dirait. C'est un jeu que les fans auquel les fans s'accrochent désespérément en attente
quand
de
suite. Quand est-ce que sort Half-Life 3?
La réponse était ça.
Il faut faire jouer mon segment à l'envers. Il y a peut-être des informations sur Half-Life. Donc, mais c'est vraiment un jeu que les gens ont aimé, qui le tient à cœur. Puis selon moi, c'est un point tournant là, du gaming moderne, là, Half-Life. Donc les gens ont constamment tenté de le ramener au goût du jour. Puis il y a une équipe qui faisait Black Mesa Source et qui, après s'est fait demander par Valve de retirer le Source, ça finit par être juste Black Mesa. En fait, et Black Mesa, c'est un jeu totalement refait dans la version la plus récente du Source Engine, qui est l'engin graphique développé par Valve. Et ils refont le jeu Half-Life au complet. Donc, on le remake. C'est fait par un third party. Ça a été approuvé par Valve. Le jeu aujourd'hui est disponible. C'est le même jeu, mais refait un petit peu. Il y a une équipe de 13 personnes qui travaillent sur ça. C'est tous des modeurs d'avant qui sont mis ensemble. C'est deux projets différents qui se sont rendus compte qu'ils avaient le même souhait, qui ont regroupé leurs équipes. Et il retouche juste suffisamment le jeu pour que ça soit vraiment intéressant de le revivre. Par exemple, au début, si, pour ceux qui ont joué, si vous vous rappelez, quand on se promène dans le complexe puis qu'on se dirige, on va chercher notre sou puis ces choses-là pour aller activer la machine qui va foutre la marde.
Voilà. Pousser le petit chariot dans la...
Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de corridors alternatifs ou des portes qui étaient fermées avant qui sont ouvertes. Donc, ils ont poussé le level design un petit peu plus loin, puis il y a plus de choses à visiter. Ils ont revu l'intelligence artificielle, les dialogues, mais il y a des personnages qui ont des choses à dire, qui n'avaient rien à dire avant. Donc, il y a un intérêt à juste goof around, puis juste se promener, comme on se rappelle la salle à manger, la cuisine, où il y avait un micro-ondes, puis on pouvait le partir. Ouais. Puis, tu sais, il y a des gags, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses à voir. Fait que c'était super agréable, mais c'est pas le jeu au complet. C'est le jeu jusqu'au moment où on quitte Black Mesa pour aller dans le monde de Xen. Et ils ont annoncé début 2017, on devrait avoir les Xen Levels, donc toute la suite des tableaux qui se passent dans l'univers des extraterrestres, qui devraient être disponibles sur Steam bientôt. Donc, si ça vous intéresse de rejouer Half-Life avec encore mieux que juste les skins de Blue Shift, c'est disponible, c'est un stand-alone, vous n'avez même pas besoin d'avoir les jeux originaux, on peut juste se procurer Black Mesa. C'est super bien reçu, en fait, il a gagné des prix. Il a gagné le Mod of the Year en 2012, alors qu'il n'était même pas encore disponible.
Pour la modique somme de 22$ canadien.
22$, vous pouvez jouer la moitié d'Half-Life, finalement.
un peu plus la moitié, je pense, non?
Bon, ouais, un petit peu.
Quand même plus, ouais.
Mais c'est super intéressant. C'est super le fun de revenir dans ce jeu-là, puis de le comparer avec les anciens jeux, en sachant qu'ils ont fait quand même... Ils l'ont retouché pour le ramener. Enfin, tu sais, le niveau sur la dame, là, où on est sur le barrage électrique, où il y a un hélicoptère qu'il faut attaquer, tout ça. Ça a l'air que ce tableau-là est 25 à 30 fois plus grand qu'il l'était, pour que ça feel comme une dame.
Ouais, comme un barrage.
Comme là, un barrage, parce qu'avant, le système ne le permettait pas.
Une chose de castor, là. Je veux dire.
Donc, comme une dame avec une drone. Puis
ouais, c'est ça.
Donc.
Ouais.
Hein, c'est ça. Donc, si vous voulez le revivre, c'est quand même 86% sur Metacritic comme jeu. Il est quand même un super bon score. Il est un super beau fini, un super beau poli. Pour revivre cette expérience-là, c'est pas quelque chose que beaucoup de jeux nous offrent comme occasion. Fait que c'est le retour à Black Mesa, si ça vous intéresse. Je n'ai pas entendu. C'est malade.
Ça fait deux fois que je suis pas encore tanné, c'est bon signe. Alors, c'est le petit moment qu'on prend dans l'épisode pour remercier nos supporters, nos parrains, comme on dit.
Nos parrains.
Oui. Nos mécènes.
Nos mécènes, ouais.
Bref, ceux qui acceptent de nous donner quelques sous pour nous aider à couvrir nos dépenses et à faire le show. On va souligner les nouveaux qui se sont joints à nous. En fait, présentement, cette semaine, c'est Louis Clément Lachance qui s'est joint au Patreon, et ainsi que tous ceux qui étaient déjà là avant, qui ont quand même décidé de continuer de nous donner de l'argent. Hein? Fait qu'évidemment, si ça vous intéresse de nous supporter, on offre quelques récompenses. Vous pouvez aller voir sur patreon.com/divanquest. On a modifié cette semaine les buts à atteindre. On mettait qu'à partir de 100$ par mois, on allait offrir un troisième épisode de la causeuse par mois qui serait disponible pour les membres sur Patreon d'avance et quelques semaines plus tard pour tout le monde. On va baisser ça à 50$ parce que d'un, ça nous intéresse de le faire. Puis on est vraiment pas très loin de ce but-là. Donc je pense que, hey, du contenu de plus. Puis ça va nous aider à avancer nos buts plus rapidement. Merci.
Donc aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, le 7 novembre. On commençait en 1631. C'était la première observation du transit de Mercure, un phénomène astronomique qui nous donne l'impression d'avoir une miette là, sur nos lunettes ou un pixel mort dans notre écran. Là. Mais non, en fait, c'est Mercure qu'on voit passer entre la Terre et le Soleil, qui a un tout petit point noir sur le Soleil.
Ah!
J'avance en 1917. 1917 a un événement qui sera nommé plus tard là, la Révolution d'octobre en Russie, où Lénine et Trotsky vont mener un soulèvement armé à Petrograd pour renverser le gouvernement en place. Puis, qui, dans le fond, le gouvernement avait poursuivi la Première Guerre mondiale un peu avec à l'opposé, en fait, malgré l'opposition du peuple, si on veut, puis du Parti ouvrier social-démocrate à l'époque. C'est après cette révolution-là là, que la Russie va devenir le premier régime communiste.
Ça nous prendrait l'hymne national russe.
Ça serait pas pire, hein?
Ben, non. Imaginez qu'on l'a joué.
C'est sûr. J'avance en 1972 avec
tu
la...
Tu peux pas le chanter, genre.
Ben oui. Si tu danses, le monde ne le voyait pas, Jeff.
C'était juste pour nous autres.
J'avance en 1972. On va avancer dans ce podcast-là. Ça finira plus. Avec la réélection de Richard Nixon au poste de POTUS. Tout ça pour me faire penser que ben, demain, le 8 novembre, ce sera jour d'élection aux États-Unis à suivre. Comment tu dis ça?
Ça fait... Oups. Échappé.
Oups. J'avance en 1994. 1994, 7 novembre, c'était à la radio étudiante de l'Université de Caroline du Nord sur le WXYC.
Ah oui.
Le début de ce qui sera considéré comme la première émission de radio diffusée en simultané sur Internet. C'est un peu comme l'ancêtre des podcasts, si on veut, là, qui sont pas en simultané, mais qui sont sur Internet.
Ce que les historiens ont appelé le début de la fin.
Le début de la fin. Hey, parlant des Internets. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Matt nous a trouvé une superbe pub qui fait la promotion des Webternets. Ça vaut la peine de prendre quelques secondes pour écouter.
On the mark, get set. We're riding on the internet. Cyberspace, set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set, you're going surfing on the internet.
Mais, dans l'esprit de d'honnêteté, etc., je l'ai entendu en fait il y a longtemps et c'est utilisé régulièrement sur le podcast de Jay and Dan, les anciens animateurs de Sportsnet qui sont rendus chez Fox Sports One. Ils ont toujours le fameux petit bout à la fin de We're surfing on the internet.
C'est de toute beauté.
Mais j'aimerais ça qu'on ait le bout virtual reality quand
tu parles de VR. Écoute, tout ça est possible.
Nous avons la technologie.
Nous avons la technologie.
Nous pouvons clipper le petit bout de son.
Merci, Internet.
Donc, 1996, si on avance, ça a été le lancement par la NASA de la mission Mars Global Surveyor. Première mission en 10 ans où on envoyait quelque chose sur Mars qui va nous apprendre de beaucoup de choses sur la géologie de Mars.
Happy birthday to you.
Je commence en 1867 avec la naissance de Madame Marie Curie, hein, physicienne chimiste qui a reçu le prix Nobel de physique et de chimie. Qui est quand même, pas rien. Une grande dame de la science là, qui est une source d'inspiration pour plusieurs, là. Ben, sauf pour le bout, où est-ce qu'elle travaille sans protection avec du radium, là, ça, c'est peut-être pas une bonne source d'inspiration.
Ça, c'est une source de radiation.
De radiation. Et voilà, on pourrait parler de la demi-vie du radium pour faire un lien avec Half-Life.
On pourrait faire un lien avec sa demi-vie à cause de l'expansion radium. Bon, excusez. Ouais,
j'avance
on s'excuse à la famille de Madame Curie.
Oui, c'est ça.
Qui doit nous écouter.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les Français au moins. C'est ça.
Voilà.
J'avance en 1879 avec la naissance de M. Léon Trotsky. Ben oui, toi imagines. Le dude, il a reçu comme cadeau de fête pour ses 38 ans
un pays communiste.
Communiste.
Maudit Trotsky. Hein, c'est...
Trotsky. J'y vais en rafale, là, puis parce que, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire que je voudrais les voir, je pense, les trois dans le même party. Là. Agnès Maltais en 56, Franck Dubosc en 63, puis David Guetta en 67.
Je me demande c'est qui ferait la musique. Sûrement Agnès.
Sûrement.
L'autre fait ce remake.
Puis je finis en 1970, oui, avec le dude qui est peut-être le plus connu au monde parce qu'il a mangé du McDo. Je parle de Morgan Spurlock, ce qu'il avait fait, qui a fait Super Size Me.
Ah, oui.
Qui a survécu à un mois de McDo.
Le seul à avoir survécu à un mois de McDo.
Ouais, et voilà. Donc, petite semaine dans l'univers des Divan Quest.
Blade of Steel.
Alors, toujours sur le thème du retour, j'ai décidé de prendre un jeu qui revisite un de mes jeux favoris. Et je vous présente donc cette semaine Bionic Commando Rearmed, sorti le 13 août 2008, développé par Green et évidemment publié par Capcom, les concepteurs du jeu original. Disponible sur PS3, Xbox 360 et PC, c'est un remake de Bionic Commando, celui du Nintendo, celui que finalement tout le monde connaît au NES. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Bionic Commando, ben c'est un platformer où on a remplacé ton piton pour sauter par un piton pour switcher un bras avec un grappin au bout. Ce qui fait que la première, le premier drum que tu rencontres à terre, t'avances dedans et t'es comme, voyons, c'est-tu, comment ça, je peux pas sauter? Ben, c'est Bionic Commando. C'est même ça arrive. Non, évidemment, l'intérêt du jeu, c'est que donc, vu qu'on peut pas sauter, on peut s'agripper aux diverses plateformes dans l'environnement pour se balancer et se projeter plus loin pour traverser l'environnement. Ce qui fait que c'est un jeu où que traverser un tableau, c'est le fun. Même s'il n'y avait pas d'ennemis dans le jeu, c'est le fun parce que ta mécanique de déplacement est divertissante en elle-même. Au niveau de l'histoire, évidemment, la version remake reprend quasi intégralement l'histoire du jeu original. On incarne un soldat du nom de Rad Spencer, qui doit aller sauver Super Joe, le plus grand héros de la nation, qui a été porté disparu en tentant de découvrir ce que les Bads, avec 2D, le gros gouvernement méchant, sont en train de préparer et, en découvrant ceci, essayer de mettre fin au conflit. Ça fait longtemps que c'est une espèce de parodie, l'univers de Bionic Commando, parce que c'est les Bads sont le nom américanisé qu'ils ont décidé de prendre pour les nazis. Parce que la version japonaise du jeu s'appelle Top Secret. Bon, en fait, sommairement Top Secret. Et on incarne, encore une fois, un soldat qui doit, bref, combattre les nazis. Et le grand méchant du nom de Master D dans la version américaine n'est nul autre que Adolf Hitler. Ouais, c'est ça. Master D.
Master D.
Master D qui se Master B. OK. Oh! Hashtag Master B. Donc, c'est ça. Fait que c'est à peine camouflé à quel point c'est les nazis. On a changé le nom, on a enlevé la croix gammée, puis on a mis juste l'aigle, finalement. Sinon, tout le reste est pareil. Et ils ont même pas pris la peine de changer le portrait de Hitler. Ils ont juste changé le nom. Fait que quand on croise Master D, c'est carrément Hitler. Donc, il y a un univers populaire sur Internet, puis bref, dans la culture du gaming, alentour de Bionic Commando. Puis c'est quelque chose qu'ils ont pris la peine de respecter en faisant Bionic Commando Rearmed. Fait que c'est justement une des choses qui rend ce jeu-là très, très, très impressionnant, c'est qu'il y a un respect énorme pour le jeu original. Les tableaux sont pareils. Les contrôles sont à toute fin pratique pareils. Évidemment, d'un côté positif, ben, ceux qui adorent le jeu original, ben, on se retrouve à la maison. Du côté négatif, ça fait qu'il y a quand même des morts cheap. Puis les contrôles sont par définition étranges. C'est un jeu qui se joue à deux boutons, hein? Puis qu'il y a un bouton qui doit s'occuper de faire pas mal toutes les actions que tu fais avec ton bras mécanique pour le tirer, te décrocher, te balancer, etc. Il y a quand même, par contre, quelques améliorations qui ont été faites là, en modernisant le jeu. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais en grande partie, c'est la présentation qui s'améliore. Je vais utiliser l'expression d'un YouTuber que j'aime bien, LGR, Lazy Game Reviews, qui, quand il parlait de Doom 4 qui est sorti récemment, ben juste sous le nom de Doom, là, mais on s'entend que c'est Doom 4, il disait que Doom 4, c'était Zeitgeist Doom. Dans le sens que ce Doom-là a été construit sur ce que le monde a en tête quand il pense à Doom. Le côté genre violent, gory, avec de la musique intense, rapide. Il y a même des références au comic book qui est un petit peu ridicule de Doom. Il en insère des lignes dans le dialogue. Bref, Doom 4 est bâti sur le phénomène culturel qui est Doom. Dans ce sens-là, Bionic Commando Rearm, c'est Zeitgeist Bionic Commando. Le personnage s'appelle Rad Spencer, ok? C'est-tu 80s en tabarnak? Puis, même ça, le nom de Rad Spencer, en fait, dans le jeu au Nintendo, au NES, est jamais mentionné. C'est la version Game Boy, qui est pourtant essentiellement un jeu différent, il se passe à une autre époque, qu'on a le nom de Rad Spencer. Mais c'est la seule fois qu'on a un nom officiellement pour ce héros-là. Fait qu'ils ont décidé de le reprendre, parce que ton personnage s'appelle Rad, ok? Le dialogue est cheesy. T'sais, c'est un jeu de NES traduit des années 80, on s'en sort pas. Les méchants, c'est fucking les nazis à peine déguisés. Puis dans le dernier moment du jeu, après la dernière bataille contre un boss, tu tires une roquette d'en face à Hitler puis sa tête explose. Pis ça a toujours été une histoire qui a resté de Bionic Commando au NES parce que ça n'aurait jamais passé dans le sensor de Nintendo à l'époque. Sauf qu'ils sont probablement juste pas rendus à tester le jeu jusque-là. Fait que la tête d'Hitler qui explose ensanglantée avec l'œil qui revole un peu sur un coin.
Parce que le reste, c'est pas violent autant. Pis,
non, t'sais. C'est ça. C'est pas un souci. T'sais. Mais cette scène-là, qui est vraiment animée simplement frame par frame, c'est trois frames en fait. La tête qui commence un peu à grossir, puis après ça, l'éclat avec l'œil dans un coin.
Je pense parce que les senseurs de Nintendo sont pas assez bons pour se rendre à la fin.
Ouais, mais ça s'en dit beaucoup sur le quality control de Nintendo dans ces années-là.
Ben oui, c'est ça. Mais t'sais, c'est difficile de tester un jeu, puis les jeux étaient forcément difficiles. Puis si tu regardes juste la table des sprites, la table des graphiques du jeu, tu pourrais pas reconnaître les morceaux comme ce que c'est.
Ah, c'est drôle.
Voilà. Mais tout ça est gardé en tête. Fait que là, ils ont carrément embrassé.
Comme un gag.
Ils ont,
c'est ça, si tu veux. Ou pas.
Voilà. Ils ont décidé de juste rendre hommage à tout ce cheese, là, tout ce côté fromager là, de Bionic Commando pour en faire un meilleur produit. Parce que tu peux pas nier ça, c'est là. Pour les fans, de reprendre tous ces éléments-là, ça en fait un hommage. Puis pour les nouveaux joueurs, ça devient une parodie des années 80, ben en oui. réalité. C'est tout ce que ça fait. Fait que pour tout le monde, ça marche. Les nouveaux dialogues sont hyper drôles, puis on s'appuie justement sur le côté macho, exagéré des années 80, puis les boss qui ont des personnalités ridicules. Fait que tout ce que ton personnage dit est vraiment comme s'il était un héros de film d'action des années 80. Il est ridicule, là. Il y a un des boss dans le jeu qui est un petit robot qui fait juste des pi-pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi. Puis ça vient du jeu original. Mais dans la version Rearmed, notre héros trouve moyen de s'engueuler avec le robot qui dit strictement pi-pi-pi-pi. D'ailleurs, justement, parlant des boss, là, le jeu original n'avait pas vraiment de boss à la fin des niveaux. C'était juste une salle de contrôle, il fallait détruire un noyau, puis that's it. Fait que ça a toujours été un des quelques points faibles des jeux, du jeu original. Mais là, Star, dans Rearmed, on a une panoplie de boss. Les boss ont toujours un petit côté puzzle pour utiliser justement les contrôles uniques du jeu, bien sûr. Puis c'est probablement la meilleure raison de jouer à la nouvelle version, là. D'avoir accès à tous ces nouveaux boss-là qui sont vraiment, vraiment inventifs, qui prennent avantage des contrôles, puis qui nous font réfléchir, puis qui nous donnent de quoi de nouveau à découvrir, même en tant que fan du jeu original.
Fait qu'ils ont remplacé les fins de chaque niveau par des boss fights.
La première est pareille, c'est la salle où il y a comme juste des gardes, puis on le pète. Puis après ça, pas mal tous les tableaux suivants ont vraiment une variation assez intéressante de boss. Puis ça nous permet justement que chacun des personnages ont des personnalités pour avoir des échanges avec notre héros. Voilà.
Rad Spencer.
Avec Monsieur Spencer. Monsieur Spencer. La musique du jeu, en fait, est produite, je vais dire produite parce que c'est tout en techno, par le producteur du jeu, qui est Simon Wiklund, qui a fait des soundtracks pour beaucoup, beaucoup d'autres jeux par la suite. Je parle à quelqu'un du monde qui a aimé ce qu'il a fait. Je vous donne un extrait de la musique de Bionic Commando Rearmed.
Il y a comme de quoi à dire, t'sais, vous le voyez pas, là, mais quand on est les trois à hocher de la tête en écoutant la musique, quand un extrait comme ça, là,
c'est vraiment pas dans mon genre musical.
Mais moi non plus, mais...
il reprend bien les thèmes, ça, ouais. Ça marie bien avec l'atmosphère. Là. Le jeu a quand même beaucoup des tableaux qui sont très, très... pas colorés dans le sens qu'il y a beaucoup de couleurs, oui, mais que chaque tableau a une palette de couleurs basée sur une couleur très spécifique. Puis ça l'aide beaucoup à donner une atmosphère, puis ça vient appuyer énormément par toute cette grosse musique-là. Le dernier tableau dans Bionic Commando, l'original, a toujours été un petit peu, un peu comme les boss, un petit peu défaillant. Il y a rien, okay? Il y a très très peu de choses, c'est juste un tableau qu'on traverse, puis on arrive à une rencontre finale où est-ce qu'on doit aller tirer dans la tête de Hitler. En fait, on est sur une plateforme, on doit sauter dans le vide, puis en chutant, on passe vis-à-vis de l'hélicoptère, puis il faut tirer dans l'habitacle, puis c'est là que la tête de Hitler explose. Fait que c'est juste un one-shot, sinon tu arrives à terre, tu te fais tirer, puis tu meurs, puis tu recommences, puis si t'as plus de vie, ben, too bad pour toi. Fait que c'est vraiment comme... C'est vraiment niaiseux.
C'est cheap.
Ouais, ouais, mais il y a un autre boss en droit de ça, mais la finale, c'est vraiment que ça. Il y a une espèce de véhicule volant qu'il faut battre, bon. Mais c'était pas à la hauteur de tous les tableaux du jeu. Parce qu'on a un jeu qui est semi-non-linéaire, mettons. On peut quand même explorer les tableaux à notre guise. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis là, t'arrives avec juste le tableau-là à la fin, c'est un peu faible. Dans le Rearmed, ils ont décidé de faire un véritable... J'ai pas d'autre mot que gauntlet. Là. C'est une série de salles qui nous mettent à l'épreuve. Donc, le seul tableau original qu'ils ont inséré, c'est une amélioration qui corrige un des défauts majeurs de l'original. Fait qu'il y a vraiment rien à critiquer ici. Là. En plus de ça, en plus de ce tableau-là qui est complètement unique, avec sa fin, qui est un nouveau boss complètement, avec une arme qui est unique pour cette rencontre-là, on a vraiment comme un micro-jeu, finalement, pour la finale, qui nous donne une version... En fait, j'aimerais dire, tout le long que le jeu a été produit, tout le monde savait que Bionic Commando Rearm s'en venait, il y avait vraiment comme des fans qui étaient intéressés, puis ils disent, ils vont-tu laisser la tête d'Hitler qui explose? On sait que c'est plus une question vraiment aujourd'hui, mais est-ce que ça va être facile de bien refaire ça, puis de payer hommage au jeu? La réponse, c'est oui. Et de façon genre plein écran, graphique et explosive, c'est vraiment juste comme, vous voulez la tête d'Hitler qui pète, là? Mais on voit jamais... Comme dans l'original, on voyait très bien la tête d'Hitler avant qu'elle explose. Là, ils ne nous montrent jamais que c'est Hitler parce qu'ils ont voulu se tenir loin de cette association-là qui était, bon, même à l'époque, qui n'aurait pas dû arriver. Mais quand tu vois la seule image, l'image fixe de la tête explosée, tu peux retrouver les éléments pour savoir comment il était peigné et quelle moustache qu'il avait. T'sais. Mais c'est un peu partout. Fait que, bref, ils ont payé hommage jusqu'à la tragique conclusion de la tête de pas Hitler. Donc, que du payoff pour les fans de l'original. En plus de ce nouveau tableau-là qu'ils ont rajouté pour la finale, on a rajouté une série de défis. Des tableaux qui sont faits pour nous mettre à l'épreuve nos talents avec le bras bionique. Ça fait penser à VR Missions de Metal Gear Solid, bien sûr. Puis pour autant là, que je me considère vraiment maniaque de Bionic Commando, puis à l'aise avec les contrôles, j'en ai sué avec les challenge levels. Ça m'a permis de développer des façons de l'utiliser. On dirait que je parle de technique tantrique. En tout cas.
Oui, c'est clair depuis tantôt que ton bras bionique. Puis Master Beat.
Parlons de mon bras bionique. Ça m'a permis de développer des façons de l'utiliser que j'avais jamais analysées avant de devoir faire des acrobaties aussi poussées. Merci. Qui montrent beaucoup de richesse dans le contrôle du bras bionique. Ça veut plus rien dire. Bref, ça nous va.
C'est pas grave.
C'est ça, je vais y aller dry, on va essayer de parler. Ça m'a permis de développer des façons de l'utiliser que j'avais jamais analysées avant de devoir faire autant d'acrobaties aussi poussées. Je serais pas capable.
Enfin.
Bref, ça montre beaucoup de richesse dans le contrôle du bras, des mécaniques de jeu. Puis même plus que moi, j'avais pu imaginer. Ça marche pas. Mais bref, c'est ça. Fait que même si on connaît très très bien les contrôles du jeu, faut revoir comment que le système de contrôle fonctionne pour passer à travers ces tableaux-là. Parce que ce qui t'a permis de passer à travers le jeu au complet, c'est pas suffisant pour faire ces tableaux-là. Vraiment pas. Donc c'est un bel ajout pour ceux qui connaissent par cœur ce maudit jeu-là. T'as pas le choix de le regarder autrement pour le faire. Ils ont rentré quelques modes multijoueurs. C'est juste du bonbon. Il y a un mode coop qu'on peut faire le jeu à deux. C'est fait pour rire, je pense, honnêtement. Parce que c'est correct, c'est fonctionnel, il n'y a rien de mal.
Faire des gags de bras.
mais à deux.
Tu vois, un peu comme tes trips tantriques. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Puis que finalement, j'ai toujours été repoussé par le fait que j'avais pas fait ça avant.
Non, mais si jamais tu veux que je te guide, qu'on joue à coop.
Ouais, mais surtout parce que mon jeune temps, je l'avais pas testé. Mais sérieusement, parce que j'avais pas joué à l'original. On s'en sort pas.
Oui.
Non, mais j'ai vu souvent le jeu, puis t'en as parlé souvent. Mm-hmm. Puis j'ai jamais embarqué dedans. Puis. On va mettre fin à ça dessus.
Non, mais c'est effectivement, il n'y a pas de raison aujourd'hui de jouer à Bionic Commando NES. La façon de jouer, c'est de mettre Rearm dedans. Puis tu sais très bien que tout ce qu'il y a de. Tripant du jeu original est là.
Mais c'est ça, c'est un must-play.
Bionic Commando a toujours été un must-play à mon avis, mais là on a une version définitive qui va enlever les choses plus fatigantes qui pourraient rebuter des nouveaux joueurs. Bref, c'est la façon de jouer à Bionic Commando aujourd'hui, c'est avec Rearmed. Faut arriver direct au point hein, pour pas passer ses gags de cul. Hein. Épisode le moins correct de Divan Quest. Il y a un mode, comme je disais, co-op, et il y a un mode deathmatch très, très, très drôle. Parce qu'avec justement le système de contrôle qu'on n'est jamais vraiment en contrôle de comment ça se passe dans le tableau, tu grimpes sur le haut d'une plateforme que tu pensais pas que tu allais te ramasser et il y a quelqu'un qui te gonne d'en face. Tu ris. Bon. Fait que tu joues 3-4 fois, c'est drôle. Il n'y a rien de plus à ça. Bref, en conclusion, parce qu'il faut que j'abrège ça, sur le thème du retour, c'est inévitable pour moi de penser à Bionic Commando Rearmed. Le meilleur remake d'un jeu classique, à mon avis. Parce qu'on on refait le jeu au complet. Il y a pas du... C'est pas juste retaper les graphiques, c'est pas juste upgrader le art. Il a été refait dans un moteur 3D, un vieux jeu 2D. Il garde toute la personnalité, le charme, la qualité des contrôles du jeu original. C'est clairement un projet pour des passionnés du jeu original. Donc, évidemment, ben, je lui donne 4 pattes de divan bionique qui permettent au mobilier de changer de place tout seul, mais qui laissent des gros scratchs sur ton plancher de bois franc.
Réflexion.
Réflexion.
Sur la semaine, quand même, on... Ça m'étonne, après tout ce temps-là, après ça, toutes ces semaines.
Parce qu'on s'est pratiqué pendant que tu n'étais pas là.
Ah, c'est ça.
Peut-être moins beau.
C'était pour ça, toutes mes techniques tantriques.
Mais écoutez, c'est assez. Mais cette semaine, messieurs, je commence avec une question quiz. Qu'est-ce qu'ils ont en commun Pépé the Frog, le thème d'ouverture de Windows 95, la musique de Diana Ross et les jeux de Nintendo 64?
Hein?
Je vais répondre pour vous. Hein?
Ouais, c'est s'il te plaît.
Un mouvement musical qui s'appelle le Vaporwave.
Pardon.
voilà. Donc, puis c'est sur ce style de musique-là, puis ses origines que j'ai cogité cette semaine, finalement. Mais avant de vous faire voyager musicalement à travers un paysage qui est rempli des Word Art Cheats de Microsoft Office en compagnie de Clippy puis Microsoft Sam.
Tabarnak!
vous allez voir. Il y a deux définitions super importantes qu'on doit comprendre. Donc, il faut savoir c'est quoi la musique, premièrement, et c'est quoi un meme. Fait que je m'embarque là-dedans. Donc, sans plus tarder, la musaque.
T'as complètement mon attention.
Donc, la musaque, on l'appelle habituellement de la musique d'ascenseur. Hein. Mm-hmm. C'est le type de musique qu'on entend communément dans les centres d'achat, dans les épiceries, au téléphone quand on est placé en attente, ou encore à la télévision sur les chaînes qui fait juste la météo, ou en musique d'accompagnement des tests de signal télé quand les chaînes ne sont pas en diffusion. Fait que rappelez-vous, le logo puis la musique affichée par Radio-Canada avant les dessins animés du samedi matin qu'on était debout trop tôt pour les écouter.
La musique d'ascenseur.
Avant l'hymne national.
Oui, mais le genre de
cercle. Oh my God, avec la petite animation!
Exactement,
oh.
Juste avant le petit film d'animation avec les oiseaux qui ouais. volent le paysage. mais le terme musaque est aussi.
Mais il l'avait aussi à la fin. Hein. Parce que oui, je me rappelle pas mal plus souvent l'avoir vu à la fin qu'au début.
Mais en fait, c'est le test de signal, c'est toujours hors d'onde quand on arrivait mm-hmm. dessus. C'était comme des barres de couleurs, il y a cette turquoise, rose, des couleurs pastel, avec un genre de quadrillé, un rond comme quadrillé.
Il y a des hachurés, puis un damier. Puis,
mais c'est pour tester le signal analogique.
Bien sûr.
Donc, le terme musaque est aussi utilisé aujourd'hui pour définir tout ce qui est de la « easy listening music », donc des bossa nova, du smooth jazz, ou encore la musique sur les disques de relaxation qu'on peut se procurer en attente pendant qu'on attend de passer à la caisse chez Walmart. ça sonne un petit peu comme ça.
J'aime mieux le paquet de gomme que la musique de relaxation en attente.
Il y a des monsters à Joliette, ouais, c'est vrai. Effet complètement contraire.
Mais pour pallier à votre ignorance, vous avez, je sais pas ça, la musique, ça ressemble à ça.
Mais on avait entendu que j'avais fait ma review de Gunpoint.
Oui,
un
petit peu.
Non, de Ronin. Dans Ronin.
Un petit peu.
Moi, je l'avais entendu quand je faisais mes séances tantriques. Plutôt. C'est beau, c'est correct, c'est fini.
On donne le crédit de l'invention de la musique au major George Owen Squire. Qu'en 1910, il a aussi inventé le multiplexing. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le multiplexing, c'est la technologie qui permet de combiner plusieurs signaux analogiques dans un seul fil. Donc, c'est la technologie qui est utilisée encore aujourd'hui puis qui permet de transporter les internets web et les épisodes de Divan Quest de votre fournisseur d'accès Internet jusqu'à votre sous-sol pour vous et vos 42 voisins.
Désolé.
Au début des années 20, les brevets du major Squire ont été rachetés puis ont été utilisés pour créer une compagnie qui s'appelait Wired Radio Inc., qui offrait la transmission de musique à travers le réseau de filage électrique à New York. Donc, les clients étaient donc facturés sur leur facture d'électricité à ce moment-là pour pouvoir écouter la musique à la maison en branchant une prise électrique dans un speaker.
C'est donc bien débile.
On parle des années 20.
C'est pour ça que le segment de l'univers de Divan Quest c'était pas long cette semaine, parce qu'on avait un segment éducatif qui s'en
faisait. Je t'ai rendu dans tout ça. Donc les clients étaient facturés sur le facture d'électricité, puis Squier restait toujours impliqué dans ce projet-là. Il y a toujours eu son mot à dire sur la façon dont la technologie fonctionnait, jusqu'en 1934, avec l'arrivée de la radio dans les foyers, qui a poussé l'entreprise à changer son modèle d'affaires, finalement. Ils n'ont pas vraiment eu le choix. Donc l'entreprise a changé son nom, puis inspirée par Kodak, qui ont un nom inventé de toutes pièces, ils ont opté pour le nom Muzak. Donc, c'est les trois premières lettres du mot musique et le AK de Kodak. Et étrangement, c'est ici que les choses deviennent réellement intéressantes. Le service de musique était principalement utilisé par des entreprises. Donc, Muzak a décidé d'expérimenter avec le rythme puis le style de la musique qu'il offrait sur son service pour maximiser la productivité des employés au travail avec une technique de leur cru qui appelait le stimulus progression. Donc, l'idée, c'était de créer un programme musical qui comprenait plusieurs blocs de 15 minutes de musique, puis à travers lesquels le tempo augmentait, le tempo accélérait progressivement jusqu'à ce que la musique devienne vraiment présente. On utilisait un peu, comme vous avez entendu dans tantôt, là, les sons de trompette, puis les batteries, les drums qui embarquent vers la fin du segment. Puis une fois que les 15 minutes est complété, le service tombait sous silence pendant 15 minutes pour éviter la fatigue auditive puis conserver l'effet maximal de la technique. Évidemment, hein, les critiques du public ont été nombreuses puis sont même allées jusqu'à inclure des accusations de brainwashing envers la compagnie.
C'est clair.
Malgré tout, le service est resté super populaire auprès des entreprises, et même le président Dwight Eisenhower a été le premier à blaster de la musique dans la West Wing à la Maison-Blanche.
Blaster de la musique.
Donc, qui sait? Peut-être que le MK de MK Ultra, ça veut dire musique.
Oh, en fait,
hashtag théorie de conspiration, hashtag Stranger Things saison 2, spoilers. Donc, maintenant que vous êtes tous des drones extra-productifs et que vous connaissez ce qu'est la musique, mais vous allez enfin pouvoir briser les silences angoissants quand vous serez en compagnie d'un étranger dans un ascenseur, parce qu'il n'y a rien de mieux pour briser un silence awkward qu'une conversation awkward sur la toune plate qui sert de trame sonore à votre périple vers le bureau du métier en 9e étage pour votre colonoscopie.
Je veux pas être fatigant, mais un drone, c'est productif.
Ça réfléchit peu.
Pas productive.
T'as raison. Lâche-moi, là.
Je suis ennuyé.
Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on s'est ennuyé qu'on va te lâcher.
Regarde!
Voilà.
Ce qui m'amène à la seconde définition. Qu'est-ce que c'est un meme? Donc, selon mes recherches, les webernets s'entendent assez unilatéralement sur la définition d'un meme. Il s'agit d'un symbole culturel ou social qui est transmis de façon virale. Donc, il peut s'agir d'une photo qu'un texte comique. On en voit plusieurs. Ça peut être une vidéo, ça peut être une expression verbale, mais le plus important critère d'admissibilité... C'est que ce soit Karen. C'est que le phénomène doit être mondialement et socialement reconnu. Donc, c'est une sorte de grippe infectieuse qui voyage d'une personne à l'autre rapidement à travers les médias sociaux. Ou...
avec un col roulé rose.
Je m'en ai justement dit qu'on va à travers les parties entre amis sur le toit d'un bloc restaurant, quand ta voisine décide d'emmener sa Nintendo Switch. T'sais. On te reconnaît plus, Karen. T'es plus la même depuis ton Nintendo.
Fucking Karen.
Mais aujourd'hui, c'est difficile de passer une journée sans être confronté à un meme ou à un autre. Puis les memes font même régulièrement les manchettes dans les médias. C'est facile de les prendre pour acquis. Hein? C'est un petit peu rendu un artefact inséparable du World Wide Web. Mais pourtant...
C'est quoi ça, le World Wide Web? C'est comme les internets web?
C'est comme les webernets.
Ouais. OK.
Mais pourtant, l'idée même, le concept du meme, ça nous provient d'un biologiste célèbre, c'était Richard Dawkins, qui écrit un livre en 1976 qui s'appelait The Selfish Gene. Je vous fais un entendre de son extrait qui nous explique très, très bien c'est quoi un meme. Never gonna give you up, never gonna let you down.
Mais si je comprends bien l'exposé de M. Dawkins, c'est au niveau génétique, donc quand il y a un atome, plus... Non, c'est
pas ça. T'as compris tout ça? Moi, c'était trop scientifiquement avancé pour moi, je suis pas rendu là. J'ai pas fini mon bac.
Un atome ne te laissera jamais tomber.
Mais les liens atomiques, c'est des liens très très forts. C'est vraiment des liens, je sais.
Mais pour citer plus directement M. Dawkins... il a dit que ce qui habite au cœur de tout être vivant, ce n'est pas un feu, un souffle chaud ou l'étincelle de la vie, c'est plutôt l'information, les mots et les instructions. Donc, pour le biologiste, le concept même d'un meme, ça implique la notion de mutation puis d'expansion des idées à travers le tissu social, d'une façon similaire à la sélection naturelle de Darwin. Donc, les idées qui deviennent populaires, c'est celles qui vont survivre à tout le monde, qui vont être les plus populaires.
Je ne sais pas à quel point les premiers qui ont appelé les conneries sur le net des mimes savaient si leur nom était si pertinent que ça.
Mais en fait... Mathieu, Le terme « Internet meme » s'est basé sur le travail de Richard Dawkins, mais ça a été proposé par l'auteur Mike Godwin en juin 93 dans la revue Wired.
Le même Godwin que la loi de Godwin, ça?
Je pense que oui. Mais, je pense que oui, parce que c'est un chercheur, c'est un okay. sociologue, ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, ça fait depuis ce temps-là partie de la culture populaire, puis chaque meme depuis ce temps-là a ses quelques semaines de gloire avant de sombrer dans l'oubli. Donc, avec la musique puis les mimes en poche, qu'est-ce que c'est du Vaporwave?
Ce serait temps qu'on y arrive.
Ouais, c'est là qu'on s'en va. Hein?
On dirait une de mes intros à un de mes segments.
Mais le Vaporwave, c'est le Vaporwave. C'est un mouvement de musique électronique qui a vu le jour en début 2010. Puis c'est depuis répandu un petit peu tranquillement à travers les diverses communautés sur Internet. C'est un genre musical qui se caractérise par une fascination nostalgique de l'esthétique et de la culture rétro, comme a été présenté dans les années 80-90 dans les domaines des technologies d'amusement, les pubs, la musique et la culture du consommateur, donc le consumerism. Au cœur du genre, qui est le Vaporwave, Vaporwave.
Les Tupperwave?
Tupperwave. je passe ce genre-là.
C'est la musique faite sur des Tupperwave.
C'est juste les bruits, tu trouves ton armoire puis il tombe. Ouais,
c'est
la musique avec ça.
Tu sais, quand t'as trop de petites ploupes, les couverts sont comme tout croche. Là, t'en tires un, pis là, tout sac le camp à terre, là. Tupperwave. Drop the lid.
Drop the lid. Drop ton lunch.
Ça, tu es revenu dans le tantrisme, là.
C'est, c'est pas correct.
Donc. Pour ça, tu chialeras que le podcast est vraiment monté.
Ah, je coupe rien.
Donc, oui. Au cœur du Vaporwave, on retrouve le sampling des contenus radio, des contenus audio, pardon, qui sont extraits de la culture rétro, qui sont mélangés à plusieurs modifications de pitch puis de tempo, puis on ajoute à ça des éléments de musique électronique moderne. Fait qu'on se retrouve avec une genre de version surréaliste puis altérée de la musique des années 80-90, toute cette musique-là qui n'était pas faite pour être écoutée, mais faite pour accompagner autre chose. Mais le Vaporwave, c'est avant tout un mime auditif qui est né sur les in-webnets.
Ah, c'est... Hein? J'accepte.
Ouais, good. Et ça se veut avant tout une satire du capitalisme et de la culture de consommation américaine. Donc, c'est une sorte de pied de nez au droit d'auteur à travers lequel les artistes utilisent les grandes marques de commerce comme le fameux You've Got Mail ou la tune theme de Windows 95 ou les publicités de l'époque, la musique des jeux vidéo de l'époque aussi, fait que c'est l'époque du Nintendo 64, ou tous les différents hits radio, en les modifiant suffisamment juste pour qu'on puisse plus les reconnaître. Donc, on ne peut pas vraiment caller
une violation des droits
d'auteur. Et on transformait ça en une nouvelle œuvre. Donc, le contenu commercial des années 90, ça devient un peu l'inspiration première du Vaporwave. Même les pochettes d'albums s'inspirent de cette époque-là avec des couleurs pastel, des statues en marbre puis des word arts avec un remplissage en granit, le genre 16 bits. Ouais.
Une belle flaque de vomi technicolor.
Fait que, je vous fais entendre un extrait. Il s'agit de l'artiste qui a principalement popularisé ce mouvement-là qui s'appelle Macintosh Plus. Ça donne déjà une idée du ton. Puis sur la pièce Geography que je vous fais écouter, il utilise la trame sonore des water levels du jeu Turok Dinosaur Hunter 64. On peut pas dire que c'est écoutable.
je suis comme pas sûr. Hein?
Il y en a des plus écoutables, il y en a des qui sonnent plus un petit peu modernes, là, des vrais beats dedans.
Ça te tentait pas de choisir eux autres.
mais il y avait pas un extrait d'un jeu 64 dedans. Les autres. Mais toute la musique populaire de ces années-là a été réutilisée, modifiée. Puis évidemment, tant qu'à ramener au goût du jour la culture des années 90, ben je me suis dit, Divan Quest doit faire sa part. Hein? Fait que, évidemment, une fois que j'ai découvert ce concept-là, ça m'a inspiré. Ça a inspiré le musicien en moi, puis j'ai décidé de tenter l'expérience. Fait que j'ai travaillé un morceau que je vais vous faire entendre. Ça dure quelques secondes, un petit 30 secondes, puis c'est suivi du morceau original qui m'a servi de matériel source. Vous allez voir la grande différence entre les deux. Évidemment, je suis allé un petit peu plus dans le shoegaze, dans le trip-hop, des choses sont plus écoutables. mais l'essence de contestation du consumerism reste là. Un petit rappel pour les cease and desist. On attend vos courriels à divanquestcommercial@gmail.com.
J'ai reconnu tout de suite.
Bon, oui, c'est clair. T'es comme Juicy Fruit!
Fait que madame, vous avez toute envie de manger la gomme?
Mais, bien sûr. Ça fait de bonnes raisons en plus.
Ça fait de la super.
Piu, 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 piu.
Ben oui, piu, piu, certain. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un segment après la réflexion à Jeff.
Hein? Puis pour une fois, c'était pas complètement déprimant.
Ça fait quand même du bien. Une goût de manger de la gomme, c'est tout. Hey, ben on le disait plus tôt, hein, on voulait souligner le retour de Jeff. Puis en fait...
On l'a fait en faisant l'épisode le plus fucked up qu'on a jamais fait.
Puis en fait, je trouvais ça quand même plate de juste faire jouer pendant 12 minutes là, la chanson de Chicken Quest. Le coq. On se disait qu'on pourrait parler de jeux qui parlent de retour ou que des jeux qui avaient les mots back ou return dedans pour faire comme quelque chose de ben. Tu sais, nos thèmes, des fois, on étire un peu la sauce là, pour les accrocher.
C'est plus des suggestions que d'autres.
Voilà. Choses. J'avais la difficulté à choisir. Fait que. Puis ma seule idée avait été volée par Jeff, on l'a dit tantôt. Voilà.
Yep.
Comme yep. Puis comme il revient, ben, tu sais, je peux pas vraiment trop y en vouloir. T'sais.
Non, tu peux pareil, c'est correct.
Bref. Je me suis dit que ça faisait un bout que j'avais pas fait un genre de top ou quelque chose comme ça. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de me faire un top des meilleurs et pires jeux qui rentraient dans notre thème. Donc avec Return ou Back, quelque chose comme ça.
Avec cette prémisse.
Ouais. Ben, j'ai pensé aller sur Metacritic, mais les jeux sont trop récents, c'était pas drôle. T'sais. Fait que je suis retourné sur un vieux site que j'utilisais quand même à l'époque, le GameRankings.com.
Oh boy, ça existe encore.
Ça existe encore. Les jeux les plus récents sont peut-être l'époque du Xbox, PlayStation 2, GameCube à peu près. Là. Je pense pas qu'il y a rien de plus récent dessus. En tout cas, si oui, il n'y en a pas qui ont sorti dans mes recherches du tout. Ah oui, il y a de la Wii. Mais okay. Ça arrête pas mal là. Dans ce que j'ai vu. Puis ça remonte quand même au temps du Game Boy Super NES Genesis. Fait que ça donne une plage intéressante, surtout avec le côté rétro de notre podcast quand même. Donc voici mon top 10 des meilleurs et des pires jeux de retour. Petite information importante, là, j'ai pas quand même joué à tout ça. Je me suis beaucoup fié à des opinions que j'ai lues ou des reviews que j'ai pu trouver. Donc les commentaires sont pas directement les miens parce que j'avais pas le temps de jouer à 20 maudits jeux. Fait que je vais y aller en alternant meilleur et pire, mais en fait pire et meilleur, puis en commençant par le moins pire et le moins meilleur pour revenir dans ce qui est mieux ou moins. En tout cas.
C'est excessivement scientifique.
Donc je commence avec un jeu qui avait un score de 49,2% sur GameRankings, un jeu de PC qui s'appelle Back in 1995.
Qui est sorti en quelle année?
En 2016, je pense. c'est peut-être mon jeu le plus récent, là, genre c'est comme 2016 de mémoire, développé par Throw the Warped Code Out, un jeu rétro, nostalgique, qui voulait recréer l'atmosphère des jeux d'aventure, horreur, survie là, de l'époque du PS1.
Ouais.
Fait qu'avec des graphiques pas super hot, puis tout ça là, un peu à la Resident Evil, puis qui a complètement manqué sa cible. dans le fond, ils vont trop loin au niveau graphique pour retourner à cette époque-là, fait que ça devient quasiment caricatural. Genre... T'sais, tu passes à côté, t'es trop laid finalement pour être comme ce qui était au PS1. Ces jeux-là, souvent, t'as une difficulté à trouver des munitions, à trouver de la bouffe puis des items. Là, c'est pas difficile. Le combat est facile, tu manques jamais de balles, tu te fais pas tuer. Y a des puzzles qui demandent pas grand réflexion, là, c'est souvent des codes à trois chiffres. Bref, c'est ça. Ça essaie d'être un Resident Evil, mais ça réussit pas pantoute. Puis t'es aussi bien de juste reprendre un vieux Resident Evil au PS1 puis de rejouer, tu auras bien plus de plaisir. Ouais. Voilà, fait que j'y vais maintenant avec mon 10e meilleur jeu avec un 80,3%, Back to the Future, The Game, épisode 1 au PC, donc le jeu de Telltale.
Donc, tu sais, plusieurs s'entendaient pas à entendre prononcer les mots Back to the Future puis bon jeu là, dans ce review-là. Là. C'était pas ceux-là qu'on s'y attendait. Mais je pense que c'est un petit bijou, là, ce jeu-là, Telltale. Là.
Mais c'est quand même pas un des meilleurs Telltale. Genre, ça aurait été le fun qu'il soit sorti un peu plus tard parce que ouais. Telltale ont vraiment pris du galon. Mais il est quand même le fun.
Ben c'est ça. Fait que pour ceux qui connaissent moins un jeu d'aventure, sorti un peu à l'époque où est-ce que les jeux d'aventure avaient un regain, là, justement, donc au niveau de la faveur populaire. Le jeu se passe 6 mois là, après la fin du film, puis on se retrouve vraiment dans l'univers là, qu'on connaît. Là. C'est comme si on n'avait jamais quitté Hill Valley, finalement. Tout est pareil, les cheveux de Doc sont identiques, la musique vient directement des films. Tu sais, c'est Christopher Lloyd qui fait la voix de son personnage, puis un très, très bon imitateur, si on veut, de Michael J. Fox, là, qui fait la voix de Marty. Fait que t'as l'impression de te retrouver, ben, directement où est-ce que t'étais parti, là. Fait que autant que la nostalgie est complètement manquée avec Back in 95, que dans Back to the Future, ben, on se retrouve, là, direct dans la nostalgie. Tu sais, puis on en parle, ça donne le goût de rejouer. J'ai pas fini ce mosaïque de jeu-là. Ben, j'ai fini l'épisode 1, mais j'ai pas fini toutes les 5 épisodes.
Moi non
épisodes.
Plus. J'ai fait les 2 premiers, je me trompe pas.
Puis je pense que ça va être dans ma liste bientôt parce que. Le revoir me redonne le goût. Ouais, j'avais oublié que j'avais mis un petit son pour caler mes différentes positions. Fait que j'y vais avant mon numéro 9.
C'est quoi ça?
NHL 94.
Oh, nice. J'accepte.
Donc, j'y vais avec le pire 49,2%, Strider Returns Journey of Darkness au Genesis. Ouais. Pour les fans des années 90, là, le personnage de Strider, Ryu, c'est quand même un gros héros de l'époque aux arcades. T'sais, c'était un jeu qui était très, très connu, très aimé, qui a eu un paquet de ports sur un paquet de consoles, dont Genesis. Donc, Strider Returns, ben, c'est un peu la suite du jeu de Capcom qui a essayé d'être, dans le fond, de capitaliser sur cette popularité-là. Fait qu'on joue un peu le même personnage. Ben, il y a eu un changement de nom, par exemple. Bon, on sait pas trop pourquoi. Puis un changement de palette de couleurs. Là, pour une question de copyright ou quelque chose de même. Puis sinon, ben, c'est pas mal le même jeu. Mais la ressemblance s'arrête là. Graphiquement, ça rejoint même pas le niveau de l'original. C'est moins beau. Les contrôles sont moins efficaces que dans l'original. Si on compare nos mouvements qu'on a dans le premier qu'on est un ninja, finalement, là, ben, dans celui-là, on pourrait dire qu'on est plus comme le ninja de Beverly Hills. Ouais. Fait que même chose pour le design des tableaux, les ennemis. C'est comme des rip-offs de l'original, pas d'amélioration. Fait que c'est comme un essai de faire de l'argent sur un jeu populaire. Hey, c'est vraiment du jamais vu. On n'a jamais vu. Ouais. Donc, on a raté. Je vais avec du côté positif, avec un 80,8%. Battlefield 3, Back to Karkand.
On n'a jamais autant parlé de Battlefield dans un épisode.
C'est fou. Mais je ne m'étendrai pas trop longtemps. Là. Dans le fond, c'est une expansion à Battlefield 3 qui reprenait des maps et des armes de Battlefield 2 là, qui avait été très, très populaire. Donc, des maps qui étaient déjà efficaces, qui ont juste retravaillé. Bref, du gros bonheur là, pour les amateurs du genre. Puis en plus, c'était bien fait. Là. Fait que c'est ce qui donne une bonne note. T'sais, c'était pas juste on reprend quelque chose qui marchait bien, mais on le fait super bien aussi dans un engin graphique puis un engin de jeu amélioré. Bref, ça a été très, très populaire. Numéro 8, j'y vais avec le mauvais, 47,5% pour The Death and Return of Superman.
Ah, c'est bon. Hein. Ouais, c'était pas bon, ça.
C'est le jeu qui fait mal à mon fanboy. Là. T'sais, c'est le jeu qui est développé par Blizzard puis qui est loin des standards habituels. Là. On parle d'un beat'em up, là, mais pas de gros challenge, à part le fait que les ennemis demandent comme 7 punch de Superman pour mourir, puis qu'ils fessent comme des trocs. Là. Fait qu'on avance vers la droite, puis on tapoche. Les graphiques font saigner des yeux, les sons font saigner des oreilles.
C'était Blizzard qui a
fait
ça.
Oui, c'était Blizzard qui a fait ça.
Voyons.
C'est un de leurs seuls jeux là, comme, de licence là, qui ont travaillé, puis c'est ça.
Ils étaient aux semaines pas le faire.
Voilà. Je pense qu'il y avait besoin d'argent, j'imagine. Puis ça n'a pas dû marcher tant que ça. Tu sais, on pourrait penser que, dans le fond, faire comme un des story arcs les plus importants de l'histoire de Superman, tu sais, sa mort au main de Doomsday, puis son retour à la vie serait intéressant, mais non. Non, parce que Superman, dans le jeu, il meurt pas au main de Doomsday pendant tout. C'est tout par un dude avec une chainsaw qui s'appelle Chainsaw, qui est un swap de couleur d'un autre ennemi super commun dans le jeu. Là. Un
qui s'appelle ça.
Qui s'appelle ça. Saw Chain.
Oui, Saw Chain.
Qui, dans le fond... T'es un ennemi que. T'es un tueur là, que ça prend 7 coups pour le tuer, puis c'est comme, je suis Superman, je devrais y défoncer la face en une taloche.
Ah, puis je me rappelle que tout est pareil dans ce jeu-là. Chaque tableau est pareil comme le tableau d'avant. Il n'y a rien qui change. C'est dol.
Tu sais, je pense que je vais reprendre les mots de Tom Green pour parler de ce jeu-là. Tom Green dans Road Trip qui disait.
Quelle tristesse!
Il a fallu que t'ailles clipper ça.
Yes. La chanson du saumon, vous connaissez pas?
Oui, ben oui.
Bref, c'est un classique chez moi.
Pour le positif, ben, on va y aller avec un 82,8% pour parler de Super Star Wars Return of the Jedi.
Fantastique de jeu difficile, over the top. Mm. Magnifique.
Mais il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, justement, qui ne connaissent pas là, cette série-là des Super Insert Star Wars Title au Super NES. Là. J'attends encore mon Super Super épisode 7. Là.
Super Force Awakens au SNES.
Donc, des bons platformers 2D dans lesquels on revit un peu l'histoire des classiques. Bon, on revit l'histoire, il faut le dire vite, là, parce que c'est très, très retravaillé. Là. Mais bon, on est dans l'univers qu'on aime, on joue les personnages qu'on aime. Mais c'est probablement un des meilleurs. En fait, c'est le meilleur de la série, souvent, selon ce qu'on voit. Le jeu est plus permissif. C'est moins difficile même que les autres d'avant. T'as les choix de plusieurs personnages, même si c'est weird avec l'histoire, mais c'est pas grave. Puis ils ont chacun un peu leur spécificité puis tout ça. Bref, un des meilleurs des trois. Beaucoup, beaucoup de bons commentaires là-dessus. Je pense que c'est un des jeux les plus balancés de la série. Beaucoup de plaisir puis beaucoup de...
Biu, 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 biu.
Numéro 7, je vais avec un 45% pour le jeu Three Ninjas Kickback au Genesis.
Est-ce que c'est basé sur les films?
Oui.
Oui, ben. Donc, un jeu basé sur un film pas très bon, ça donnera sûrement pas un jeu très très bon non plus. Puis effectivement, c'est un jeu où est-ce qu'on incarne un des trois kids, là, qui sont les personnages principaux du film, qui est souvent nommé comme un des pires jeux du Genesis. Donc, des graphiques affreux. C'est des fois difficile de différencier le background, puis l'avant-plan, puis l'arrière-plan. Là. Les couleurs sont trop semblables. Les contrôles sont comme difficiles. Niveau de difficulté beaucoup trop élevé. Tu commences le jeu. Première chose qui arrive, c'est que t'as un gros boulet qui te court après. T'as même pas le temps d'essayer les boutons, que tu te fais toucher par le boulet puis tu meurs, t'sais. Puis tu réussis à courir, tu te sauves du boulet. Il y a des stalactites qui te tombent dessus, il y a des plateformes avec des pics. Puis quand t'arrives à passer tout ça, t'as comme ton grand-père qui te tapoche à la gueule. Puis tu sais, la musique, c'est comme 8 secondes en loop, genre affreuse. J'ai pensé de le clipper, mais j'étais comme non, là, je suis pas méchant.
On a déjà ta sirène dans chaque top là.
Bref, vous êtes tous bien de ne pas perdre de temps avec le jeu, puis juste de regarder le film si vous avez vraiment envie.
Il y a déjà deux jeux dans ta liste, dans les mauvais jeux qui viennent du Genesis.
Ouais, mais tu sais, faut pas penser que c'est nécessairement parce que Genesis est
mauvais. Ah ouais, mais je pense qu'ils l'ont en SNES aussi.
Ça se peut, mais ils sortaient pas dans la même place dans la liste, fait qu'ils étaient peut-être meilleurs. Mais bon, c'est surtout que il y a peut-être beaucoup de back ou de jeux. Tu sais, c'est l'époque du Genesis où on faisait des jeux sur les films aussi. Il y a peut-être ça. Kickback. Ouais, ben je trouvais que c'est drôle parce que c'est un vieux film. Fait qu'avec le positif, un 83%, Tomba 2 de Evil Swine Returns au PlayStation. Ouais. Suite directe d'un jeu qui est super connu du PS1, le Tomba, qui est une espèce de platformer RPG aventure, si on veut, là, avec des éléments de puzzle, où est-ce qu'on joue un genre d'homme préhistorique avec une jupe de paille puis des cheveux roses qui se bat contre des méchants cochons humanoïdes. Là.
Oh.
Lui?
Donc, c'est ça. J'avais marqué dans mes notes, ouais, vu de même, là, t'as pas mal fait la même réaction. Bref, c'est quand même un jeu qui est le fun à jouer, qui est assez quand même intéressant. Le jeu, le deuxième, là, celui dont je parle, est assez semblable au prédécesseur. Puis c'est une bonne chose pour les fans. Ceux qui n'ont pas aimé le style, ben, tant pis. Tu sais, gameplay quand même intéressant. L'histoire est amusante, graphiquement, c'est quand même impressionnant pour le PS1. T'sais, les couleurs sont pétantes, sont vibrantes, ça attire. Par contre, bonne chance pour le trouver à bon prix. C'est des jeux qui sont pas achetables. Là. Ouais. Puis, je savais pas ça. Puis, moi, c'est un des jeux que j'ai joué comme beaucoup trop sur mon démo disque de PlayStation. Là. À l'époque où j'avais économisé longtemps pour m'acheter un PlayStation, j'avais pas de maudite scène pour les jeux, fait que je jouais aux démos en boucle. Là. Puis j'ai quand même beaucoup joué. Puis, tu sais, quand j'ai commencé un peu à regarder les jeux rétro, il y a comme un 2 ans, j'ai dit, il me semble que ça pourrait être drôle. Puis, oh, finalement, c'est ça, c'est drôle.
C'est pas si drôle.
Voilà, fait que, mais Tomba 2, un des bons jeux, des Evil Swine Returns. J'y vais pour la position numéro 6 avec un 35,9% pour Family Guy Back to the Multiverse. PS3, Xbox 360, je pense. Là.
Ouais.
Bon, Family Guy. Hein. Tout le monde aime Family Guy. Bon, pas tout le monde, mais en tout cas. Combien de monde ont dû s'acheter le jeu en disant « Ah, c'est le fun, un jeu de Family Guy, on va s'amuser. » Puis ces gens-là ont probablement eu du fun parce qu'on retrouve un peu le même genre de gag, mais en plus cheap.
On peut remarquer la grande quantité de jeux de licence dans les points négatifs.
Oui, hein, quand même. C'est impressionnant quand tu regardais le reste de la liste aussi, là, si tu allais un peu plus loin. Imagine. Donc, on parle d'un genre de jeu de tir à troisième personne où est-ce qu'on joue soit Brian ou Stewie, puis qui jouent pas mal de la même façon, mais qui ont juste des armes qui ont l'air différentes. Là. Brian a des petits piou-piou laser, puis au contraire, Stewie a des piou-piou laser, puis Brian a des armes très conventionnelles. puis c'est très difficile de viser, c'est pas très très efficace au niveau du gameplay. Le 3D a l'air d'avoir été botché dans le fond, dans le graphique.
Et pourtant, là, on parle de plateforme très 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 moderne, bien capable de faire des graphiques simples comme ça.
Tu sais, puis voilà. Fait que tu sais, un jeu qui a pas vraiment. Le gameplay n'est pas intéressant, l'histoire est pas si drôle que ça, le graphique est laid. Point plus positif, par exemple, qu'on notait dans les reviews souvent, c'est qu'on peut utiliser comme arme. Ernie, là, le poulet géant. Puis on peut aussi utiliser comme arme les Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Men. Puis ben, le Maire West a comme arme un Cat Launcher.
Comme il se doit.
Comme il se doit. Donc ça, c'est les points positifs du jeu. Le reste est très, très négatif.
C'est pas un Bat Cat Launcher?
Non, c'est juste un Cat Launcher parce que c'est Maire West. Je vais pas essayer. C'est fini. Du côté positif, à la même position, on retrouve avec un 84,4% Shadowrun Returns. La version iOS, là, la version PC est plus basse à 76,8%.
Là. OK, ouais.
Souvent, les reviews d'iOS sont plus hautes
parce que le reste du catalogue est de la merde.
Ben, c'est ça. Mais bon, je l'ai quand même inclus dans ma liste parce que c'est Shadowrun.
Mais voilà.
Puis un épisode long se doit de parler de Shadowrun. j'en parlerai pas beaucoup plus que ça parce que c'est un jeu qui est sur ma liste de jeux à parler, à faire un vrai segment depuis assez longtemps. Mais j'y reviendrai en détail, là, vraiment. Fait que reste que pour l'instant, mot du bon jeu à savoir. Puis je suis pas surpris de le voir dans la liste des bons jeux avec le mot Returns dedans.
C'est mérité.
Il en reste 4.
Je suis rendu au numéro 5. Je peux dropper la sirène si tu veux.
Il reste 4 sirènes.
Okay. En position numéro 5, un jeu de Game Boy Color. Matt, tu vas être content. Ben, à part qu'on parle des jeux mauvais.
Ouais, c'est ça.
Un 33,3% pour The Mummy Returns.
Oh, j'en doute pas.
Fait qu'un autre jeu qui est basé sur un film. Tu sais, c'est. Tu regardes la description, puis ça a l'air hot, là. Ça parle de 3 personnages jouables, ça parle de puzzle, de combat à main nue, de first-person shooter, de simulateur de vol.
Quand on parlait de faire des coches du derrière de la boîte, là, ça en est un.
C'est ça. Fait que quand t'essaies d'en faire trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te plantes, puis il n'y a rien qui est fait comme du monde. Fait que tout ça est plate, mais tout ça est là. Bref, innovateur, mais pas bon. Du côté positif, on y va avec un 84,8%.
Oh oui.
Un autre jeu de licence, The Lord of the Rings, The Return of the King, au PS2. Et autres de l'époque.
Yes,
ça c'était bon.
Ben, j'en ai parlé un peu en parlant de War in the North.
Ouais. Donc, comme quoi, c'est pas tous les jeux basés sur un film qui vont être de la complète merde. Là. on retrouve dans notre top 10 de Return of the King. Genre de hack and slash d'action fait par EA avec un gameplay assez rapide, style arcade. Là. Donc, on peut jouer en coop, on peut jouer différents personnages. On arrive à un point où est-ce qu'on peut choisir de suivre une des 3 histoires qui se passent dans le film, puis on peut y aller dans l'ordre où on veut.
Je pense que l'affaire qui vieillit le moins bien, par contre, de ces jeux-là, c'est qu'ils étaient tellement fiers de montrer à quel point le graphique était hot que chacune des cinématiques, parce qu'en chacun des tableaux, c'était avec des scènes des vrais des films, finalement. Ouais. Puis là, ils transitionnent, mais ils fade les scènes vers les graphiques du jeu. Ça n'a pas le même impact aujourd'hui que ça avait dans le temps.
Fait qu'à l'époque, c'était comme « Ah, c'est nice, les graphiques à cette heure,
c'est comme « Ouh, la face de Gandalf avec des cheveux plats. Hein, »
Donc, 9 personnages jouables au total dans le jeu, quand même. Puis un mode online, là, pour ceux qui avaient l'adaptateur. Là.
Mais, c'est vrai.
Ouais. Donc, niveau graphique, impressionnant aussi par l'époque. Pour l'époque, niveau particules, ça a l'air qu'il y en avait comme énormément quand on comparait. Là, c'est sûr que j'ai pas pu comparer tous les jeux. Mais...
Ouais, mais en faisant un jeu qui était très linéaire, justement très arcade, contenu, ça faisait que chacune des scènes était tellement détaillée, fait que c'était très beau.
Bref, à ajouter dans vos listes de jeux pour les fans de PlayStation 2, GameCube et Xbox original.
Puis ça coûte absolument rien.
Non, parce qu'ils en ont vendu une chier.
Voilà.
Ça fait beaucoup de périodes qui se finissent. Hein?
C'est une grosse game.
Une grosse game.
Alors, plus tard, une game de balle, finalement.
Ouais, 10, ça fait pas mal. C'est pas mal ça. Avec un 31,9%, Superman Returns, ODS.
Ah, OK.
Ouais, on continue avec des jeux basés sur les films. Hein. On se rend compte à quel point ça marche bien. Puis les jeux de Superman aussi.
J'allais dire Superman avec... Là, on n'a pas Superman 64, ben... Parce qu'il n'y a pas le mot Returns. Parce qu'il n'y a pas le mot Returns. C'est dans le top en crise.
Mais finalement, tout ce qui est basé sur Superman, c'est pas.
Ben, il en parlait, une des reviews que je lisais pour Superman Returns. Il disait, tu sais, à un moment donné, tu veux faire un jeu de Superman. Puis là, t'as le côté, mettons, Death and Return of Superman, où est-ce que ton bonhomme se fait péter à gueule par des humains random avec des chainsaws. Ou dans Superman Returns, ben, en fait, ben, Superman, il n'est pas tuable. Fait qu'on va faire une autre mécanique. Fait que ton bonhomme, il meurt pas. Ce qui a une vie, c'est comme t'as la ville que tu défends qui a une barre de vie.
Okay,
fait que là, quand tu fais des missions pour essayer que la ville se fasse pas détruire, ben, Okay. C'est un peu ça qui va se prendre comme mécanique. Fait que je comprends l'idée, mais en fait, ça fait comme quelque chose qui est vraiment pas engageant comme gameplay pendant tout. Tu te promènes dans la ville en volant, tu t'en vas à une place où il y a une mission, tu rentres en mission, t'as un genre de jeu un peu puzzle style DDR avec l'écran du bas en haut touch. Puis là, que tu réussisses la mission ou pas, ta ville perd de la vie par rapport au nombre de missions pas encore faites.
Okay.
Fait que tu sais, que tu réussisses ou pas, t'es puni pareil.
OK.
C'est ça. Fait okay. que, tu sais, mettons que ce jeu-là sera pas sur ma liste de jeux de DS à trouver, même si c'est une plateforme que j'aime beaucoup, d'aucune façon.
Ça, si t'as pas compris, c'est un statement profond sur l'état de la justice.
Sur la fatalité.
La fatalité.
Du monde moderne.
C'est peut-être ça.
À travers un film
sur
moyen.
Sur ta toune de Juicy Fruit.
Sur la fatalité de mâcher de la gomme.
Côté positif, en quatrième position, on parle avec un 85% de Shinobi 3, Return of the Ninja Master. Pour redonner un peu de plaisir à la Genesis. Donc, on revient pour parler de Ninja, mais ce coup-là, pour les bonnes raisons. Là. On parle d'un jeu d'action plateforme où est-ce qu'on a notre épée de ninja, nos shurikens, puis notre magie ninja. On t'appoche les méchants.
C'était comme le pire speech de vente pour ce jeu-là. T'as une épée ninja, des shurikens, puis de la magie ninja.
Ouais, c'est ça. Puis tu t'approches des méchants, t'as oublié ce bout-là. Mais c'est quand même un des jeux souvent qui est les plus recommandés au Genesis, la suite de l'autre Shinobi qui était là avant, là, le 2.
C'est Shinobi 3 qui est la suite de Shinobi 2.
Ouais, c'est ça, je te dis, il est tard.
C'est dur.
Mais graphiquement, vraiment, vraiment très beau, qui poussait quand même pas mal la puissance de la console à l'époque. Gameplay qui est, oui, un peu répétitif parce que c'est un beat'em up, mais quand même là, avec assez de différence pour qu'on ait du plaisir à jouer puis à continuer d'avancer. Puis on le retrouve souvent là, dans les tops du Genesis. Pas juste dans les listes de back, là, mais dans les tops généraux de Genesis. En numéro 3, avec un 25,8%.
Oh shit.
Ouais, ça drop un petit peu. Doctor Who Return to Earth à la Wii. L'histoire est écrite avec ensuite l'aide des scripteurs du show. C'est, ça doit être pas pire. Ouais, c'est ça.
OK.
L'histoire est pas pire.
Ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. C'est supposé être un jeu d'aventure, mais il n'y a pas tellement d'action. Beaucoup de stealth, là, où est-ce qu'on doit comme éviter les ennemis pour aller chercher des cristaux colorés qui vont servir à interagir avec d'autres objets.
Un typique hostie jeu de licence à Wii. Là.
Ouais, c'est ça. Tu mets des mécaniques en arrière de ça où est-ce qu'il faut que tu pointes avec ta Wiimote pour aligner tes cristaux de couleur.
Gossage.
C'est ça. Puis graphiquement, on dirait que le jeu est sorti genre dans les deux premières semaines de la Wii, là, ou qui a été développé sur le GameCube quasiment, mais pourtant, non, il est développé quand même, il a été sorti assez loin dans le cycle de la Wii.
Fait un cash-in.
Ouais, c'est ça. Une belle déception. De l'autre côté, avec un 86,8%, Return to Castle Wolfenstein, un des jeux qui est sorti quand on a commencé à parler de Return. Là, tu sais, moi, je me rappelle à cette époque-là, c'est encore l'époque de Polytechnique là, qui revient me lâcher dans ça. Toute la hype qu'il y avait autour de ce jeu-là, là, tu sais, ça faisait 10 ans, je pense, que le Wolfenstein original était sorti. Puis là, ben, on s'entend que les ordi avaient fait des méchantes avancées au niveau de puissance dans les dernières années. Fait qu'on parle d'un FPS, on parle d'un gameplay qui était assez différent des autres qu'on avait à l'époque. Là. C'était beaucoup de piou-piou-piou à l'époque, sans trop regarder. C'était le début des Call of Duty puis tout ça, où est-ce qu'on tirait dans le tas, puis on réfléchissait pas trop. Puis Return to Castle Wolfenstein demandait beaucoup plus de stratégie un peu parce que, bon, les ennemis sont un peu plus intelligents, on a à se cacher, on a à éviter les attaques. Nos armes sont aussi beaucoup plus réalistes. Il y a du recul. Tu peux pas tirer en full auto dans le vide puis espérer tuer quelqu'un. Il faut que tu prennes un peu plus ton temps. Le seul hic qu'on retrouve souvent, c'est que ça commence comme un jeu qui a l'air très très historique, où est-ce qu'on combat les nazis et tout ça, pour finir dans un univers complètement pété de science-fiction avec des robots, puis c'est ça. Mais
c'est les Uber-soldats.
Mais tu sais, en fait, c'est le point souvent un peu négatif, parce que souvent dans une review, tu retrouves quand même un peu de négatif, pas juste mettre beaucoup de positif. Mais un jeu qui a eu beaucoup de hype, mais qui n'a pas déçu, hein, contrairement à certains jeux dont on a parlé dernièrement.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le mode en ligne qui n'avait pas été livré avec le jeu, mais qui avait été donné gratuitement par la suite. Je me rappelle, je l'avais eu dans un PC Gamer. Je l'avais vu, puis il donnait Enemy Territory avec.
Ouais, voilà.
Ah, c'est ça.
Puis qui était comme un multijoueur, mais avec des objectifs, là, où tu avais une équipe qui défendait des points, puis il fallait que tu les prennes. Mettons, il fallait que tu construises le pont, faire passer le char d'assaut, mais si te forçait à reculer, il pouvait briser le pont, puis le fait que tu recommences.
Ah, ben, je me rappelle que le multijoueur avait beaucoup plus pogné que le single player. Puis ça avait, fuck, je pense que, il me semble récemment, j'ai entendu du monde qui jouait encore, qui avait encore des serveurs actifs. Wow. Que c'était...
Ça m'étonne pas. Vraiment, j'ai vraiment des bons souvenirs de cette version multijoueur-là. Puis on l'a pas déjà joué en LAN party. Non, puis...
Ah,
possiblement. C'est sûr qu'on a déjà fait ça.
Avec beaucoup trop de câbles bleus.
C'est le même, ça se fait.
J'allais dire de Red Bull, mais il n'avait pas à l'époque.
Nope.
C'est de l'orangeade, j'imagine.
Juste des roches de sucre. Ça s'arrête là.
Ouais, c'est ça. J'ai une grosse mail à chaque fois que je pèse mon horn. En deuxième position, avec un 22,1%, Batman Beyond Return of the Joker au PlayStation. Ouais, fait qu'encore un beau jeu inspiré de matériel vidéo. C'est une jolie tendance. Mettons que pour décrire le jeu, j'ai pris un bout de la review sur IGN qui faisait une liste des raisons de ne pas acheter le jeu. Tu sais, c'est comme n'achetez pas le jeu. Fait que genre, parce qu'on peut pas sauter puis frapper en même temps.
Ok.
On parle de PlayStation, là.
Ouais, ouais.
Les armes sont plus inutiles que les coups de pied. Ils font moins mal, les armes, que les coups de pied de Batman. Le jeu a pas de gameplay, vraiment. Il joue pas, tu sais. les graphiques sont affreux. Puis quand tu penses que c'était basé sur un jeu qui... C'est basé sur un dessin animé qui aurait pu facilement aller chercher des graphiques. Non.
Puis qu'il y a un look assez simple quand même.
Non, ils ont même pas réussi à aller chercher le look du dessin animé simple pour le mettre dedans comme correctement. Fait que c'est de la grosse dompe. De l'autre côté, avec un 87,9%, Donkey Kong Country Returns à la Wii. Hein, parce que la Wii, c'est pas juste des mauvais jeux pour essayer de cacher sur Doctor Who.
Chance.
Tu sais, c'est pas rare à notre époque maintenant de voir un jeu comme en 2D sur une de nos plateformes modernes, tu sais, que le 3D est super puissant. Mais à l'époque de Donkey Kong Country Returns, c'était quand même pas fréquent. Puis quand il est sorti, ben, le monde s'est dit, mais non, pourquoi on retournerait en 2D? On a des jeux en 3D maintenant. Puis je pense que c'était une maudite bonne idée.
Bon, puis Nintendo trouvait que c'était une bonne idée en ST, parce que la quantité qu'ils ont sorti depuis.
Hein. Ben, je pense qu'en fait, comme, hey, ça marche!
Je me plains pas, là, sauf que, mettons qu'ils ont double down. Ils ont fait comme, il me semble qu'on pourrait faire rien que ça pour le restant de nos jours.
Hey, entre ça, puis des petits jeux de gimmick de manette. Hein.
On va le prendre.
Fait que, effectivement, c'est probablement un des meilleurs jeux de la Wii, de façon générale, là, même en dehors de mon critère de champ de recherche là, de Returns. Tu sais, c'est le même gameplay classique qu'au Super NES, en 2D, platformer de Donkey Kong Country, avec des graphiques ben beaucoup plus beaux, beaucoup mis à jour. Et par exemple, les tableaux où est-ce que, genre, le soleil se couche, puis ton personnage, c'est qu'une ombre noire avec une cravate. Puis le fond d'écran est comme tout jaune, orangé, puis tout ça. Je trouve que c'est dans les tableaux les plus beaux que j'ai vus sur à peu près n'importe quoi dans les dernières années. Là. Visuellement, c'était écœurant. Puis ça donne un petit côté bien le fun à jouer aussi, où est-ce que tout ce que tu vois, c'est les ombres de tes ennemis aussi. Là. Mais visuellement, c'était écœurant. Tu sais, seul côté qui est un peu moins suivi de l'original, c'est l'humour qu'il y avait beaucoup dans les versions de Rare, qui n'ont pas suivi dans cette version-là, un petit peu wacky, un peu nono. Mais bon, tu sais, c'est juste pas poussé au même point. Au niveau du gameplay, c'est parfait comme jeu. Il n'y a pas trop de gossage de manettes. Là, tu pouvais, je pense, t'approcher des ennemis en bougeant tes manettes, ouais. Mais c'était tout. Là. C'était tout pas. Fait qu'un mozo de bon jeu pour les fans de platformers. Puis on termine. En numéro 1, avec Back to the Future 3 au Genesis pour un 21%.
C'est une série qui a des jeux de marde.
Et ouais, sans grande surprise pour ceux qui ont joué de Back to the Future 3, c'est peut-être le pire jeu qui existe avec le mot retour dedans. Là. Je dis peut-être parce que, bon, en dehors de mes recherches, il y a peut-être du monde qui ont trouvé des jeux pires. Mais...
Ils l'ont quand même mis pire que ceux du NES.
Ben, ceux du NES n'étaient pas là sur Game Rankings. Il n'y avait pas de NES. Fait que je pourrais pas te comparer. Il faudrait déjà le voir ailleurs. Puis,
parce
bon,
que c'est tout un défi à battre. Ça.
Mais quand je. J'avais déjà parlé de Back to the Future là,
ouais,
dans les premiers épisodes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disait oui, c'est pire que ceux du NES quand même. Parce que. Souvent, ils vont dire que c'est pas trop un jeu, plus qu'on dirait comme quatre tech démos, là, quatre démos techniques collées ensemble. Fait que t'as comme quatre tableaux qui sont quatre gameplays complètement différents, puis qui sont quatre chnoutes. Là. Tu sais, le premier tableau, c'est comme une poursuite à cheval où est-ce que Doc veut rattraper Mary, ouais. Là, qui s'en va se pitcher dans le trou. Là. Fait que là, tu cours après elle en essayant d'éviter les obstacles, les oiseaux qui passent, les méchants qui te tirent dessus, les barils qui roulent, puis c'est long.
C'est une collection de mauvais mini-jeux.
Il se passe rien. Ben, il se passe beaucoup de choses, mais il se passe rien. Puis c'est long et répétitif. Puis là, ben, tu te plantes, puis là, tu recommences, puis là, tu te plantes, puis tu recommences, puis c'est ça, tu sais. Tu y arrives à finir ça, tu te retrouves avec Marky qui doit tirer dans un genre de champ de tir, là, un stand de tir sur les ennemis, une genre de vue à première personne. Là. Repenser avec les contrôles du Genesis, comment déplacer un curseur pour faire du tir à la première personne. J'aime le... après ça, tu finis par te retrouver contre des vrais ennemis dans une genre de perspective isométrique de la ville où est-ce que tu tires des assiettes sur les méchants, comme au travers des fenêtres.
Ouais, okay.
Puis là, t'es comme, t'en as qui sont dans un angle à peu près impossible à tirer, mais il faut te leur tirer quand même des assiettes, en tout cas, pour tirer tes ennemis. Puis finalement, quand tu réussis à traverser tout ça, il faut que Marky traverse un train
pour aller sauver là, ses amis qui sont au début du train, où est-ce que le train est extrêmement long, puis encore là, il y a des bouts cheap qui te font mourir, genre sans que tu puisses réagir parce que le train va trop vite. Là, ah, il y a un poteau, t'es mort. Fait que voilà. Fait que jeu trop court, mais avec des sections qui s'étirent beaucoup trop longtemps pour essayer de donner une espèce d'effet de longueur. Gameplay vraiment médiocre, puis qui restera probablement dans les annales pour sa médiocrité. Je finis avec ça sur Back to the Future 3 pour montrer que même ça, ça a été scrappé. Fuck, même la toune marche pas.
C'est pour tous ceux qui aiment le sound chip du Genesis. Je vais leur faire jouer ça à toutes les fois qu'ils me disent que la carte de son est fun.
On a fait du Vaporwave?
Non.
Même pas. Fait que même la toune, est comme, c'est pas une bonne note. Ouais. Mais à l'opposé, avec un 88,5%, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back au PlayStation. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont un peu... qui ont comme trippé sur ce personnage-là, le Crash Bandicoot, qui était la réponse un peu, si on veut, de Sony à Mario, là, d'avoir une mascotte un peu le fun, puis un platformer 3D pour l'époque. Puis le premier, souvent, était reconnu pour être un peu frustrant dans la façon d'y jouer, les contrôles, puis tout ça, parce que bon, c'était le début du 3D, puis c'était pas tout le temps très, très efficace. Mais dans la suite, ce qu'on en lit, c'est que c'est quand même beaucoup plus jouable, beaucoup mieux. Les contrôles sont plus efficaces, puis... on retrouve un peu quand même le même côté d'humour, puis le platformer qui est quand même très, très le fun. Donc, un beau côté, un beau platformer, c'est sûr que c'est en 3D, fait que si vous platforming 3D, vous l'aimez pas, ben c'est sûr que c'est pas le fun, mais il est quand même bien fait de ce côté-là. Des tableaux qui sont bien faits, bien designés, des graphiques qui sont efficaces, donc un bon jeu avec une très bonne note. Fait que, ben, re-bienvenue parmi nous, Jeff, puis on te souhaite un retour de style Crash Bandicoot, là, pas un retour style Back to the Future 3.
Mais ça me fait plaisir à l'avenir de donner mon 88,5%.
Ça va être une belle amélioration de toute façon. On y va. Good show! Donc, on l'a dit tantôt, mais je le répète quand même. Fait que si vous avez envie, puis si vous le pouvez, vous pouvez donner un petit coup de main au podcast en allant au patreon.com/divanquest. Sinon, les derniers épisodes sont au divanquest.com. Pour le feedback, le hate mail, c'est au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Sur divanquest.com, on retrouvera aussi le lien pour la pétition pour un amiibo pour Karen. Donc, le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com, dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com, sur Balado Québec au baladoquebec.ca. Allez nous trouver, cliquez nos petites étoiles. Puis sur iTunes, vous pouvez y aller, commenter, cliquer les petites étoiles, laisser un commentaire. On aime ça, ça nous fait monter dans les rangs, ça nous rend plus visibles. Puis ça, on est toujours content. Donc, on se revoit bientôt. Et d'ici là,
Game on!
Game on!